Allô? Oui, c'est bon? Bien, on a sacrifié au quart d'heure poids de vin, on a 5 minutes de retard, donc rapidement, vous souhaitez la bienvenue. Avant de passer la parole à Christian Berrier, président de l'école de l'ADN, je voulais vous dire deux, trois petits mots sur l'espace Mendès France. Il y a dans la salle des têtes connues, des habitués et puis peut-être des nouveaux. Donc vous êtes ici à l'espace Mendès France dans un centre de culture scientifique qui fêtera ses 25 ans en janvier 2014. Le pôle a été inauguré voici 25 ans par Hubert Curien, un grand ministre de la recherche qui tenait beaucoup à la culture scientifique. Donc d'un mot, simplement vous dire que cette maison a pris l'habitude depuis plus d'une quinzaine d'années de traiter les questions de science sur trois niveaux. Le premier, c'est celui attendu de tout le monde, celui de la vulgarisation des sciences. Vulgarisation qui permet d'informer, mais également de donner du grain à moudre au monde de l'éducation. Mendès France, c'est 14 000 scolaires chaque année. Le deuxième pôle que tout le monde connaît aussi, c'est un pôle qu'on appellera grand public, de loisirs scientifiques. Et le troisième pôle, celui pour lequel vous êtes là aujourd'hui, c'est un pôle qui nous permet finalement d'engager une réflexion sur les rapports entre science et société de manière générale. Et ce travail, nous l'avons commencé dès 92 ici avec la création d'un pôle d'histoire des sciences qui reste relativement original en France. Donc une journée comme celle-là, c'est 3-4 fois par an, régulièrement en partenariat avec l'école de l'ADN, une belle structure que nous avons la chance d'héberger ici à Poitiers. Cette journée, elle a deux objectifs finalement. D'abord à travers vos débats, vos interrogations qui parfois peuvent apparaître comme pointues et un petit peu réservées à des initiés. En fait, à travers vos débats, nous avons deux objectifs. La diffusion d'abord, parce que tout ce qui est dit ici est enregistré. Et puis le deuxième aspect pour nous, c'est d'en tirer un certain nombre de pistes de travail. Dans cette salle ont eu lieu depuis 10 ans une multitude de colloques et de séminaires qui nous ont permis, nous, en tant qu'acteurs de la culture scientifique, de créer des expositions, des supports, etc. etc. Donc vos débats, vos échanges, c'est bien sûr pour créer un échange sur la connaissance, mais également pour nous, en tant que médiateurs, d'en tirer peut-être un certain nombre de conséquences. Voilà. Pour terminer d'un mot, sachez que l'espace Mendès France est ce lieu à Poitiers qui reçoit chaque année environ 55 000 personnes. Et c'est aussi une plateforme régionale importante de diffusion, puisque nous sommes beaucoup présents en Poitou-Charentes, en milieu rural, et c'est dans ce sens-là que nous essayons de travailler à une meilleure diffusion des sciences auprès de nos concitoyens. Donc, moi, je vous souhaite une bonne journée de travail, beaucoup d'échanges, peut-être, j'espère, des controverses et des débats. Christian, je te passe la parole.
Oui, merci Didier. Bon, très rapidement, je crois qu'il était tout à fait normal que l'école de l'ADN en Poitou-Charentes s'associe à cette journée. Ça fait plusieurs mois que nous travaillons à l'élaboration de cette journée. Et donc aujourd'hui, c'est l'aboutissement de nombreuses réunions et contacts qui ont été pris à travers le pays. Nous avons un petit peu anticipé cette journée il n'y a pas très longtemps, puisque dans le cadre des stages que nous offrons aux lycéens de la région, stage qui s'appelle lycée recherche et métiers scientifiques, nous avons instauré une nouvelle thématique qui s'intitule donc sexe, genre et crustacés. Donc là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus restreint, quoique, mais qui nous a permis de découvrir des choses assez extraordinaires et des choses qui ne vont pas du tout dans le sens qu'on a habituellement l'habitude de voir. Donc ça a été, auprès des lycéens, ça a été un grand succès. Je pense que là, on va avoir un débat qui va être évidemment beaucoup plus large, même si en fin de matinée, on va revenir sur ce thème. Et donc je laisse la parole à Yves pour que nous puissions, directeur scientifique de l'espace Mendès France, nous puissions démarrer cette journée.
Merci. Merci beaucoup. Donc nous avons déjà un petit peu de retard. Donc mon rôle va être relativement modeste dans cette matinée, puisqu'il s'agira de veiller quand même que nous ne débordions pas trop. Et puis de vous inciter à poser des questions, mais je pense que ça viendra rapidement. J'irai éventuellement dans l'autre sens si jamais l'Assemblée s'est chauffée comme on peut le constater au niveau de l'Assemblée nationale ces temps-ci, mais je pense que ça sera beaucoup plus calme et plus raisonné en tout cas. Donc j'ai un autre rôle aussi, c'est de vous présenter les intervenants au fur et à mesure de leur passage. Alors ça pourrait être très long pour Pierre-Henri Gouillon qui est le premier intervenant parce que je pourrais passer une demi-heure à lire sa biographie. Donc je vais faire quand même relativement bref pour vous dire que c'est un biologiste de formation, agronome, qui a beaucoup œuvré à Montpellier, en tout cas qui a été formé à Montpellier, qui est docteur en sciences de l'Université de Montpellier, mais avec une particularité puisque j'ai pu noter un DEA de philosophie. En même temps donc le doctorat en sciences à Montpellier. Puis donc il est allé évoluer vers la capitale et il est actuellement donc professeur au Muséum d'histoire naturelle, Muséum national d'histoire naturelle, mais est aussi enseignant à l'AgroParisTech, à Sciences Po et à l'ENS Paris. Donc agronome de formation, il est spécialisé bien évidemment sur l'étude des plantes, mais il a une vision beaucoup plus large, comme vous allez pouvoir le constater. Ses travaux, ses thèmes de recherche portent sur le mécanisme de l'évolution en allant de la génétique à l'écologie. Il a rédigé évidemment beaucoup de publications scientifiques, mais aussi un certain nombre d'ouvrages dont il est auteur ou co-auteur. Et vous pourrez avoir la possibilité, vous aurez la possibilité de consulter certains de ses ouvrages ainsi que d'autres intervenants, puisque comme d'habitude, lors de ces journées d'études, nous vous avons préparé un certain nombre d'ouvrages qui sont sur la table qui est à votre disposition ici à l'arrière de la salle. Donc je vous souhaite une bonne journée de réflexion et puis je passe donc la parole à Pierre-Henri Gouillon qui va être sollicité à de nombreuses reprises puisqu'il animera la table ronde qui suivra. Et puis, il sera aussi modérateur des sessions de l'après-midi. Merci Pierre-Henri.
Oui, maintenant je suis au courant.
C'était un piège.
cet après-midi, du coup, je vais être un modérateur pas du tout modéré. Parce que comme j'ai un train à 5 heures, je vais les obliger à être extrêmement précis sur leurs horaires. Voilà. Merci en tout cas, merci à l'Espace Madès France d'organiser cette journée. Je pense que ça tombe bien, en plus hein, c'est un peu dans l'actualité. Et oui, vous n'avez pas fait exprès, mais bon. Et donc, je vais commencer avec pourquoi le sexe, présenter un certain nombre de choses. J'espère que je ne serai pas trop redondant avec des choses qui se diront après, en particulier par Thierry Laudet, parce que on verra bien. Pourquoi le sexe ? Déjà, une réflexion sur... Je suis bien obligé de vous présenter un tout petit peu... Oups là, ça commence mal. Le sexe, l'histoire un petit peu de la vision qu'on a pu avoir de la reproduction sexuée se confond avec l'histoire de l'humanité, parce que je pense qu'on s'est posé des questions sur ce sujet très très tôt, et peut-être même avant de s'appeler vraiment Homo sapiens. Et une des étapes intéressantes que je voulais vous citer, c'est donc au XVIIe siècle, quand on invente le microscope et que immédiatement l'inventeur du microscope découvre grâce à ça ses propres spermatozoïdes, eh bien tout de suite ça va donner naissance à ces petits dessins que vous voyez à droite avec donc un petit bonhomme dans le spermatozoïde. Et je crois que personne ne croit plus vraiment à ça, mais malheureusement dans nos sociétés on continue à raconter ça aux enfants. On dit que le papa met une petite graine dans le ventre de la maman. Je pense qu'il est important de dire que cette phrase est scandaleuse, puisqu'elle ne donne à la mère que le rôle d'un terreau plus ou moins fertile dans lequel germera la graine, qui est la production du père. Alors ça, c'est un point intéressant. On voit bien, dès qu'on regarde une reproduction sexuée avec des mâles et des femelles, on y reviendra, que c'est la femelle qui fait le petit, c'est pas le mâle. Et certainement, ça fait partie des problèmes qui se sont posés aux hommes, c'est... un des thèmes de Françoise Héritier, je vous conseille la lecture sur ces plans-là, puisqu'elle a montré que presque tous les mythes des différentes cultures essayent de redonner à l'homme la paternité, une paternité plus importante que la maternité. Et tout compte fait, l'histoire de la petite graine, bah, c'est jamais qu'un de ces mythes qu'on raconte chez nous et contre lequel il faudrait donc s'élever. Alors à l'époque, hein, on pensait vraiment que c'était une petite graine, puisque si elle tombait dans la terre, ça faisait une mandragore. Bon, voilà, ça se raconte plus trop. Voilà, donc la biologie va commencer par toute une série de fables, et c'est seulement donc il y a 150 ans que la biologie devient une science adulte, disons, avec une théorie de base, la théorie darwinienne, fondée sur l'idée de sélection naturelle, avec ce processus donc, qui suppose une reproduction, une variation et un tri par la nature. Je suis obligé de revenir un peu là-dessus parce que la réflexion sur le sexe, sur pourquoi le sexe, a été très profondément influencée par certaines interprétations de la théorie darwinienne. Donc premièrement, la sélection naturelle, et deuxièmement, le processus que Darwin va appeler le processus de divergence, hein, c'est-à-dire qu'à partir d'une forme de départ, et bien ça c'est un dessin donc, issu de l'origine des espèces de Darwin, hein, eh bien, des formes vont diverger progressivement sous l'action de la sélection naturelle. Et donc la diversité des formes qu'on voit aujourd'hui serait issue donc, de cette divergence progressive de lignées au cours du temps. Alors, comment ça marche ? Eh bien, il faut qu'il y ait constamment génération de diversité. Et d'où vient cette diversité de base ? Ben, c'est la diversité des individus. Ça, Darwin va l'affirmer. C'est la diversité des individus dans la population, dans l'espèce. Et donc, ce processus repose lourdement sur la façon dont s'engendre la diversité. Et bien sûr, le sexe fait partie de ces mécanismes. C'est-à-dire, d'où vient cette diversité de départ ? Eh bien, elle vient de la façon dont la reproduction des individus engendre constamment de la diversité. Et alors, je suis désolé, j'ai des petits problèmes de cadrage sur certaines diapos, sur certains ordinateurs. Mais il bavarde tout le temps devant, là, c'est terrible. Ah, je suis un enseignant, moi, je vous préviens, je ne me laisse pas faire. Hein. premièrement, donc, comment la diversité est héritée ? Eh bien, vous savez qu'on a longtemps cru à ce qu'on appelle aujourd'hui l'hérédité des caractères acquis. Vous avez là à droite une figure du 19e siècle hein, qui vous montre un type qui a perdu une jambe dans un accident et qui est tout fier de voir que son fils a hérité de son caractère. Alors, c'est intéressant parce que il faut attendre 1883 pour que Weismann affirme l'inexistence de ce processus, alors, auquel tout le monde croyait, y compris Darwin, avant ça. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que il y a quelque temps, je montrais ça à des étudiants, et il y a un étudiant qui me dit, mais enfin, quand même, les gens, comment ils ont fait pour ne pas constater que des types à une jambe produisaient des descendants à deux jambes ? Enfin, ça se voit quand même assez facilement. Et certainement, ils l'ont vu, mais ça ne prouvait rien. Parce qu'il y a aussi une phrase qui est répétée encore aujourd'hui dans la série des imbécilités biologiques répétées par notre culture, après la petite graine, je vous présente la deuxième, ça saute des générations. Hein, vous l'a déjà dit, celle-là aussi. Hein. Ben voilà. Alors évidemment, ça saute des générations, ben, le type il a descendu à deux jambes, mais tout le monde va dire, un jour ou l'autre, ça ressortira. Hein, puis comme personne ne sera plus là pour prouver que ce n'est pas vrai dans trois générations, et ben, on continue à croire à ça. C'est d'ailleurs cette idée-là qui va faire qu'on va refuser les idées de Mendel. Mendel qui montre que dans les croisements entre deux plantes rouges, il peut y avoir un descendant blanc tout blanc et que ce descendant tout blanc va produire des descendants tout blancs pendant toutes les générations qui suivront si on ne le recroise pas avec une fleur rouge, et ben on ne va pas le croire. On va lui dire non, ça saute des générations, tu n'en as pas fait assez, mais un jour ou l'autre, ça ressortira. Et on va refuser les idées de Mendel en 1865 pour ça. Il faudra attendre 1900 pour qu'on les redécouvre. Donc, Weismann et Mendel nous donnent une idée, une vision de la façon dont le sexe transmet la diversité, la reproduction sexuée transmet la diversité, qui est tout à fait remarquable. Hein. C'est que l'hérédité est incroyablement amnésique, au fond. Premièrement, il n'y a pas d'hérédité de l'acquis, c'est-à-dire qu'on ne transmet que ce qu'on a reçu. Et deuxièmement, en plus, on en transmet que la moitié. Alors, dire qu'on ne transmet que ce qu'on a reçu, dire qu'on ne produit pas d'hérédité soi-même, vous voyez que c'est terriblement vexant. Hein. On passe sa vie à essayer d'être quelqu'un de bien, et puis quand on fait un descendant, bah, ça ne change rien, on lui transmet que ce qu'on a reçu avant, quelle que soit la conduite qu'on a eue, quel que soit l'état dans lequel on est. Bon, ça peut avoir un côté rassurant pour d'autres, mais en tout cas, ce que ça a comme conséquence, c'est que ça donne de l'individu, sur le plan de l'hérédité de la diversité, une image d'un espèce de tuyau amorphe hein, qui transmet les choses sans les produire. Alors, pas complètement amorphe, parce que comment est-ce qu'on influence la génération suivante dans le cadre weissmanien ? Eh bien, par le fait qu'on produit plus ou moins de descendants. Et c'est la sélection naturelle. La seule manière dans laquelle les individus influencent au fond ce qui va se passer dans l'avenir, c'est en produisant plus ou moins de descendants, puisqu'ils vont reproduire plus ou moins ce qu'ils ont hérité. Hein. Mais on ne peut plus produire d'hérédité, on peut juste reproduire une hérédité qui nous précédait. Tout ça a des conséquences énormes. Alors, je ne vais pas avoir le temps de complètement vous traiter cet exemple, mais je veux quand même vous donner cet élément. Le sexe a une conséquence déjà, c'est qu'il faut s'y mettre à deux pour faire un descendant. Si on prend les choses dans l'autre sens, eh bien, chaque individu a deux parents. Donc, il a quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents. En fait, c'est toujours vrai ce que je vous dis là, a priori. Seulement, chaque individu dans une espèce sexuée a quatre grands-parents, mais les quatre grands-parents ne sont pas nécessairement quatre individus différents. Si les parents étaient frères et sœurs, les quatre grands-parents, ça serait que deux personnes. Ça serait deux fois le même grand-père et deux fois la même grand-mère. S'ils étaient demi-germains, eh ben, il y aurait un grand-parent en commun et l'autre qui ne serait pas. Donc vous voyez que le fait d'avoir quatre cases dans votre généalogie, ça ne prouve pas que vous avez quatre individus différents. Heureusement, parce que si je continue comme ça, on a 2 puissance n ancêtres quand on vient de n générations en arrière. Si je me place à l'époque de Charlemagne, 50 générations, 2 puissance 50, ça fait en gros 10 puissance 15, ça fait à peu près 1 000 000 000 d'ancêtres chacun. D'accord ? Or, là, il est clair que le truc que je vous disais pour les quatre grands-parents qui est exceptionnel chez les humains, qui n'est pas rare chez les vaches ou les poulets d'élevage, hein, eh bien, ça devient la règle. C'est-à-dire que, évidemment, que si on a chacun 1 000 000 000 de cases dans notre généalogie, on va remplir ces cases avec beaucoup moins d'1 000 000 000 d'individus. Hein, c'est juste pour l'époque de Charlemagne, ça, hein, c'est pas cumulé, c'est juste cette époque-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Vous voyez que du fait du sexe, du fait qu'on a 2 parents, 4 grands-parents, etc., eh bien, notre généalogie inclut beaucoup plus que toute la population mondiale, simplement quelques générations en arrière. C'est pas si loin que ça, Charlemagne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si jamais, mettons, nos ancêtres, on avait 100 millions d'ancêtres existants à l'époque, eh bien, ces 100 millions d'individus, à eux 100 millions, il va falloir qu'ils remplissent 1 000 000 000 de cases, c'est-à-dire que chaque individu de l'époque est en moyenne 10 millions de fois notre ancêtre. D'accord ? Alors, donc ça veut dire qu'on a tous les mêmes ancêtres. Il n'est pas question qu'en plus chacun ait les siens. Donc ça veut dire que de cette époque-là, il y a deux sortes de gens, ceux qui sont les ancêtres de tout le monde et ceux qui sont les ancêtres de personne, c'est-à-dire qui n'ont pas laissé de descendants ou qui en ont dont les descendants n'en ont pas laissé. Sorte que si quelqu'un vous dit « j'ai fait ma généalogie et je sais que je suis le descendant de Charlemagne », vous pouvez lui répondre à coup sûr. Voilà, alors moi aussi, vous êtes content, vous avez appris un truc, vous êtes les descendants de Charlemagne. Le malheur, c'est qu'évidemment, hein, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a tous les mêmes ancêtres, pourquoi on n'est pas tous pareils ? On n'est pas tous pareils parce que, justement, la reproduction sexuée à chaque génération a consisté en un tirage aléatoire des gènes des parents pour fabriquer les descendants et que nous sommes chacun un échantillonnage dans les gènes de ces personnes dont on est tous les descendants. Nous avons chacun une loterie que nous avons tiré différents gènes dans le génome commun de tous les individus de l'époque. Voilà une des conséquences du sexe et voilà comment le sexe produit à la fois une très grande homogénéité, parce qu'au fond, une population, vous voyez que c'est un ensemble d'individus extraordinairement apparentés. Il n'y a aucun moyen que vous alliez choisir un conjoint pour faire des descendants qui ne soit pas apparenté à vous. Il n'y a pas besoin de remonter si loin que ça, en fait. Mais, en même temps, comme il y a ce tirage aléatoire, le sexe, tout en homogénéisant les ancêtres, hétérogénéise les individus par les effets de tirage aléatoire qui s'y produisent. Bon, je passe là-dessus. On a regardé donc l'évolution des espèces sexuées. Je reviendrai sur les formes asexuées tout à l'heure. Et on a regardé comment cette diversité après s'organisait. Je vous raconte ça parce que ça va influencer très profondément ce qu'on va raconter juste après. On a progressivement donc développé des études de génétique et cette figure qui date des années 70, hein, qui possède tous les défauts des figures des années 70, on met les humains en haut. Hein. Quand on a le choix, on met un mâle et pas une femelle. Hein, ça c'est... Bon, on ne fait plus ça maintenant, hein, on fait attention, on met les humains au milieu, on met des femelles, etc. Eh bien, cette figure, elle représente quoi ? Elle représente l'histoire de la lignée qui contient tous les descendants des poissons, si vous voulez, hein, avec ici les différences génétiques entre les individus. Donc, sur un gène donné, qui est le gène de l'hémoglobine alpha, qui est partagé par toutes ces formes vivantes. Et qu'est-ce que je constate ? Eh bien, qu'entre un humain et un cheval, il y a 18 différences, entre un humain et une souris, 16, entre un humain et un poulet, 35, un humain et une salamandre, 62, un humain et une carpe, 68, et un humain et un requin, 79. Et ça, ça a surpris personne quand on a trouvé ce genre de résultat. S'attendait à ressembler plus à un cheval qu'à un requin. En revanche, ce qu'on a trouvé dans l'autre sens, c'est moins évident. Vous voyez qu'un requin ne ressemble pas plus à un humain qu'à à une carpe qu'à un humain. Et qu'une carpe ressemble plus à un humain, 68 différences, qu'à un requin, 85. Alors, je ne sais pas si ça vous surprend. C'est un résultat qui est devenu maintenant classique et qui est, au fond, une des plus grandes preuves qu'on ait que l'évolution a bien eu lieu, hein. Le fait que la carpe ressemble plus à l'humain qu'au requin, c'est clair pour tout le monde ou ça vous étonne un peu ? Bah, regardez l'arbre généalogique qui est là. Au début, il y avait des poissons cartilagineux, puis certains sont restés cartilagineux et sont parfaitement heureux avec ça. D'autres ont inventé l'os, et puis il y en a qui sont restés des poissons osseux. Voilà. Et puis il y en a d'autres qui, parmi ceux qui avaient des os, sont sortis des os. Où est le dernier ancêtre commun entre l'homme et la carpe ? Il est là. Et où est le dernier ancêtre commun entre la carpe et le requin ? Il est là. Donc, oui, du point de vue d'une carpe, un homme, c'est plus proche qu'un requin. C'est pas parce que nous, on trouve qu'ils se ressemblent, mais eux, ils trouvent pas du tout qu'ils se ressemblent. Hein. Faut pas vous faire... D'accord ? Bon, pourquoi je vous raconte ça ? Parce que le fait de regarder les choses comme ça, ça a conduit progressivement, alors ça plus d'autres considérations que je n'aurai pas le temps de discuter, à voir l'évolution sous un angle de plus en plus génétique. On s'est dit, au fond, effectivement, qu'est-ce que j'ai reçu moi en commun ? J'ai des choses en commun avec le requin. J'ai ce gène de l'hémoglobine alpha, puis j'ai plein de choses dans mon génome qui ressemblent à celui du requin. Et au fond, toute l'histoire de la vie, c'est l'histoire de la reproduction de l'information génétique tout le long de ces lignées. Et ce que je vois ici, c'est les effets sur la divergence de la formation génétique de l'évolution. Mais quand on voit les choses comme ça, on ne voit plus des individus qui produisent des individus, on voit une information génétique qui traverse les individus. C'était d'ailleurs l'image que Weissmann donnait un petit peu de la vie. C'est-à-dire qu'il y a une continuité génétique à travers les lignées et qui traverse les individus. Et la sélection, au fond, hein, donc ce qui est conservé au cours de l'évolution, c'est l'information génétique. Les individus disparaissent, seule l'information génétique reste. Et donc la seule chose qui puisse être sélectionnée dans un processus comme ça, c'est l'information génétique. Ce qui est conservé par le processus, c'est les informations qui ont produit les organismes qui les reproduisaient le mieux. Donc, tout compte fait, la sélection naturelle, ce n'est pas la sélection des individus qui marchent le mieux. Un individu qui marche très bien, mais qui ne reproduit pas son information génétique, eh ben, il s'est raté sur le plan de l'évolution. Ce qui est sélectionné, c'est les informations génétiques qui ont produit les organismes qui leur permettaient le mieux de se reproduire. Et donc, si je veux comprendre ce que c'est qu'un être vivant, eh bien, il faut que je dise qu'un individu, c'est un artifice inventé par les gènes pour se reproduire. Ça, c'est une expression que j'ai empruntée à un automaticien genevois dans les années 70. Alors, l'expression la plus connue pour ça, hein, c'est l'expression du gène égoïste. Je vais passer là-dessus. Pardon. Je croyais l'avoir mise juste après, tant pis. Donc, les individus sont des artifices inventés par les gènes pour se reproduire. Alors, on parle de gène égoïste, c'est à la suite de Dawkins. J'aime pas tellement cette expression, je pense qu'elle prête beaucoup plus à critique. Bon, on pourra en rediscuter si vous voulez. Mais c'est à partir de là qu'on a commencé, alors d'abord à regarder le fait que c'est pas parce que les individus sont des artifices inventés par les gènes pour se reproduire qu'il n'y a que des individus, que le niveau des individus qui reproduit les gènes, au fond, l'information génétique se reproduit à toutes les échelles. Depuis l'échelle de quelques nucléotides, hein, vous avez des petits bouts de nucléotides qui se reproduisent dans le génome, vous avez des gènes qui se reproduisent pour eux-mêmes, vous avez des chromosomes qui jouent un petit jeu de reproduction individuelle contre d'autres. On en verra des exemples d'ailleurs, je pense, tout à l'heure, si on a la chance de parler un peu de sexe de cloporte, toutes choses comme ça. Et puis, vous avez de la sélection à tous ces niveaux-là, mais toujours ce qui est sélectionné, c'est l'information génétique, à travers la réussite des entités matérielles qu'il apporte. Oui, je passe là-dessus. Alors, tout ça va nous éviter un écueil extrêmement grand de la biologie classique, qui est l'attitude dite panglossienne. Alors, Pangloss, c'est un philosophe inventé par Voltaire pour se moquer de Leibniz, en fait. Hein. C'est le précepteur de Candide dans le conte du même nom. Et il est dit que Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmologie et qu'il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause et que dans ce meilleur des mondes possibles, le château de Monseigneur le Baron était le plus beau des châteaux et Madame la meilleure des baronnes possibles. Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes, aussi avons-nous des lunettes. Voltaire écrit ça plusieurs dizaines d'années avant que Bernard de Saint-Pierre ne dise très sérieusement, lui, que le melon a été divisé en tranches par la nature afin d'être mangé en famille, hein, et que la citrouille étant plus grosse peut être mangée avec les voisins. Donc vous voyez, cette vision d'une nature bonne et que tout est bien, tout est au mieux, hein, tout est au mieux, comme disait Pangloss, hein, eh bien c'est une vision qui traverse la biologie. On rit de Bernard de Saint-Pierre, mais on en dit des presque aussi grosses régulièrement dans les cours de biologie. Et moi, je pense que quand on est un biologiste, eh bien, on a été entraîné à dire des choses panglossiennes. Par exemple, les biologistes disent très facilement des conneries énormes du genre que les individus font des choses pour la reproduction de l'espèce. Comme si les individus se préoccupaient, hein, même les humains ne sont pas capables du tout de s'occuper de l'avenir de leur espèce, vous ne croyez quand même pas, hein, que les escargots le sont. Les escargots ne se préoccupent pas de la reproduction de leur espèce, évidemment. Ils sont sélectionnés, hein, leurs informations génétiques ont été sélectionnées pour fabriquer des escargots qui reproduisaient au mieux leur information génétique à eux, pas celle des autres. Et justement, c'est très important pour comprendre le sexe, parce que, voilà, donc le gène égoïste, j'ai pas trop le temps de parler de ça, on va laisser tomber, je vous l'ai assez présent. Voilà, alors pourquoi est-ce que tout ça pose un problème? Eh bien, Darwin a écrit dans une lettre à un ami en 1860 « Il n'y a pas de plus grand mystère au monde, me semble-t-il, que l'existence des sexes, particulièrement depuis la découverte de la parthénogénèse. » Cette phrase est assez mystérieuse. Malheureusement, il n'a jamais développé cette idée. Et en fait, il a fallu attendre 1970 pour qu'on retrouve le problème. 100 ans avant qu'on comprenne ce que Darwin avait bien pu penser dans cette phrase. Et le mystère, eh ben, je vais vous l'expliquer. C'est que, au fond, moi, j'ai reçu ce genre de cours de biologie. Quand vous êtes un biologiste, on vous apprend qu'il y a deux manières de se reproduire. Il y a le clonage, qui correspond à une division cellulaire qui s'appelle la mitose, qui fait des cellules identiques à la cellule mère. Et c'est bien, ça fait des trucs identiques, mais c'est un peu lassant. Et heureusement, il y a le sexe et la méiose et la fécondation. Et la méiose et la fécondation, c'est bien parce que ça fait de la diversité. Et si vous ne dites pas ça dans votre copie, eh ben vous avez une sale note et vous ne serez jamais prof de SVT. ni chercheur au muséum. Il faut dire que la méiose, c'est bien parce que ça fait de la diversité. Et là, c'est totalement panglossien. Comment peut-on imaginer que les individus aient développé des caractéristiques biologiques comme ça pour faire de la diversité? Et du coup, la question va se poser. La question se pose de cette façon-là. Évidemment, le clonage, au fond, c'est quand même vachement plus efficace que le sexe pour se reproduire. Mais beaucoup plus, c'est ça, je voudrais vous en convaincre. Alors, sur le web, vous trouverez des tas de trucs là-dessus, un truc de Woody Allen, hein, ça nous donne, le sexe, ça nous donne des maladies, ça nous prend toute notre énergie, ça obscurcit notre jugement, et ça ne transfère même pas nos gènes vraiment efficacement. Pourquoi est-ce que d'autres n'ont pas suivi l'avis de Woody Allen et évolué pour se reproduire avec quelqu'un qu'ils aiment à la place, quelqu'un qu'ils aiment étant eux-mêmes, évidemment. C'est vrai que ça prend une énergie folle, hein, que ça amène certains individus à se trimballer avec des attributs absolument démentiels, que ça peut, j'aurais dû mettre une Porsche ou quelque chose comme ça, ça aurait été pareil, hein. Ça crée des différences entre les individus qui sont de nature extrêmement variée. Bon, ça, je laisserai Priscille Touraille parler de la différence d'auto-appréciation des hommes et des femmes dans notre société, je suppose. Ça crée un dimorphisme extraordinaire. Alors ça, vous voyez, ça c'est un poisson des profondeurs. Vous voyez, ça, c'est la femelle, vous voyez, elle est très jolie. Et ça, c'est le mâle. Hein. Je vous le montre de plus près. Hein. Il fusionne avec la femelle. Hein. Il devient une sorte d'appendice et il ne produit plus que des spermatozoïdes et puis c'est tout. Bien. Alors, je vais être obligé maintenant de revenir à la question de base, pourquoi le sexe, hein. Premièrement, je voudrais vous dire que le sexe au sens général n'est pas nécessairement lié à la reproduction. Il y a des tas de cas où on fait du sexe, c'est lié à du parasitisme ou à de la prédation. Alors, au sens général, c'est quoi ? Ben, c'est le fait que deux individus, à eux deux, en fabriquent un autre, hein, qui procédera génétiquement des deux précédents. Voilà, je vais pas aller. Ça, c'est le sexe. Et on le trouve partout dans le monde vivant, d'abord, c'est la première chose. Hein. On le trouve absolument partout. Chez les bactéries, par exemple, vous voyez cette image torride d'un accouplement bactérien. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, cette bactérie-là possède un petit chromosome en plus qu'on appelle un plasmide, qui est en fait un agent infectieux à l'origine. Hein. Et cet agent infectieux va faire synthétiser à la bactérie un tube protéique qui va aller rejoindre une autre bactérie. Et quand une fois que ça exerce une autre bactérie, le plasmide se divise et va aller infecter la bactérie à travers le petit tube. Et donc, alors il y a une phrase que je vous conseille de noter, de méditer. C'est un biologiste anglais du début du XXe siècle qui l'a écrite. Il a dit « Il n'y a pas loin de l'hérédité à l'infection ». Je l'ai posé un jour à mes soeurs de master, c'était une catastrophe. Mais bon, en sujet d'examen. Alors... Donc vous voyez là typiquement, le génome, alors le petit plasmide là qui se trouvait dans la bactérie, il peut parfaitement emmener plus ou moins des gènes de la bactérie de départ, de son chromosome. Donc ça veut dire qu'une fois que l'opération est terminée, ici on a une bactérie qui est génétiquement, qui possède génétiquement des caractéristiques de cette bactérie là au départ, plus de celle-là. C'est bien du sexe. Et vous voyez que ça n'a rien à voir avec la reproduction. Les bactéries, il y a des moments où elles font ça, d'autres moments où elles se divisent. Et puis c'est tout. Alors il y a une autre manière de faire du sexe chez les bactéries qui est à base. Alors j'en ai. Voilà, là vous en avez une qui est en train d'en parasiter deux à la fois. Hein. Ah oui, c'est intéressant parce que donc la nature un peu parasitique du sexe apparaît très clairement quand on regarde les bactéries. Et comme par hasard, les microbiologistes appellent souvent ces bactéries-là des bactéries mâles et celles-là des femelles. On y reviendra. Bah oui, celui qui fourque ses gènes à l'autre. Hein, vous voyez. Et. Donc, une autre manière de faire du sexe chez les bactéries, c'est de passer par des virus. Donc là, au lieu d'avoir un plasmide qui se transmet comme ça à travers un petit tube, c'est le même principe, si vous voulez. Le virus, il a son génome dans la bactérie. Il peut embarquer des gènes de la bactérie avec lui, mais au lieu de passer par un tube, il passe par une capside. Hein, vous savez, il sort sous forme de particules virales et il va pouvoir aller infecter une autre bactérie en emmenant des gènes de la bactérie de départ. On appelle ça la transduction. Ça s'appelle la conjugaison. Donc, conjugaison, c'est avec les plasmides, transduction avec les virus. Puis il y a une troisième manière de faire du sexe chez les bactéries, c'est tout simplement quand elles mangent de l'ADN. Et il y a certaines formes de bactéries qui font ça très activement à certains moments de leur cycle. Elles absorbent de l'ADN et elles l'intègrent dans leur chromosome. Donc, trois manières, hein, ça s'appelle la transformation bactérienne. Vous voyez, la transformation, la conjugaison, la transduction, trois manières de faire du sexe, rien à voir avec la reproduction. D'autres moments où elle se... Alors la conjugaison, ça existe aussi chez d'autres bestioles, comme par exemple les paramécies, vous savez, ces petites ciliées là qui ont un gros noyau avec plein de chromosomes répliqués en plein d'exemplaires, et puis un micro noyau qui lui possède que ce qu'il faut comme juste un exemplaire des chromosomes, et par moment, eh bien, elles se réunissent, hein, et elles échangent leur micro noyau, elles divisent leur micro noyau et elles en échangent un. Voilà, vous avez donc des conjugaison, paramécie, même chose, hein, c'est pas du tout au même moment que la reproduction, c'est totalement découplé. Deuxièmement, donc ça c'est le sexe au sens large, si vous voulez. Hein. Alors ce qu'on va appeler sexe au sens restreint, c'est quand. Ah mince, j'ai oublié la figure, c'est vrai. C'est quand vous avez un cycle, il est plus loin. Quand vous avez un cycle et qu'il y a un moment où les individus sont avec deux jeux de chromosomes, c'est ce qu'on connaît nous, hein, et puis il y a cette division cellulaire particulière, la méiose, qui fabrique. Des entités avec la moitié du chromosome, et puis ces entités se réunissent un jour sous forme de gamètes pour refabriquer un œuf. Ça, c'est le sexe au sens restreint. Mais même au sens restreint, il reste encore plusieurs possibilités, parce que vous pouvez avoir isogamie, c'est-à-dire que les deux gamètes sont de même taille, ou alors anisogamie, les deux gamètes ne sont pas de même taille. Anisogamie ou ogamie, je vais considérer qu'ils sont... Il y a encore la question de savoir si le gamète femelle est mobile ou pas, mais bon, c'est un détail. Alors l'anisogamie, c'est seulement à ce moment-là qu'apparaissent les femelles et les mâles. Tant qu'il y a isogamie, vous ne pouvez pas dire lequel est le mâle, lequel est la femelle, et on ne les appelle pas mâles et femelles, on les appelle plus et moins, quand il y a des types sexuels, ou grand A et petit A, ou grand A et alpha, chez les champignons, chez les algues, on trouve ce genre de choses. Bon, je passe là-dessus, donc voilà. Donc, dernière manière de faire du sexe, celle qu'on considère nous comme normale parce que c'est la nôtre, hein, eh bien, le sexe au sens restreint avec anisogamie. Et là, vous avez donc effectivement l'anisogamie est extrême. Hein, c'est-à-dire que vous avez. Ça c'est des humains. Donc, un ovule et un spermatozoïde, c'est pas du tout la même taille. Bon, en général, un ovule reçoit plusieurs spermatozoïdes, mais il en laisse pénétrer qu'un. Et cette anisogamie va être en général accompagnée par toute une série de choses, parce que l'individu qui produit le gros gamète, on va l'appeler femelle, et celui qui produit le petit, on va l'appeler mâle. C'est ça la définition. Et souvent, l'individu qui... Alors, vous ne savez pas si vous avez déjà vu un ovule. Bien sûr, mais si, vous en avez déjà vu, bien sûr. Le jaune d'œuf. C'est un ovule, le jaune d'œuf. Donc, c'est une très grosse cellule, hein, quand même, pleine de nourriture. La femelle investit beaucoup dans la production du descendant. Et même, vous savez qu'elle met du blanc autour, ça, c'est chez les oiseaux. Mais chez nous, eh bien, elle met tout un système autour pour élever le petit. Et même après la naissance du petit, il y a des glandes particulières pour nourrir le petit chez les mammifères. Donc c'est la femelle, en général, dans presque toutes les espèces, c'est la femelle qui met tout l'investissement dans la production du petit. Et dans la plupart des espèces, quand il y a des mâles et des femelles, les mâles n'investissent rien dans la production du descendant. Ils investissent dans la séduction de la femelle, mais pas dans le descendant. C'est la femelle toute seule qui s'en occupe. Bon, je passe là-dessus aussi. Donc, cette question hein, de comment, de qu'est-ce que c'est que l'investissement relatif des mâles et des femelles, ce qui est intéressant, c'est que le mâle n'investit que dans le fait d'arriver à porter ses gènes à la femelle, et c'est la femelle qui produit le descendant. Ça fait qu'on peut dire que sur le plan évolutif, les mâles ressemblent beaucoup à ce qu'on pourrait appeler des parasites. Hein, puisque, qu'est-ce que c'est hein, quand un virus de la grippe hein, vous infecte hein, qu'est-ce qu'il fait? Il vous injecte ses gènes pour que vous lui reproduisiez, ça vous rend malade. Et vous lui reproduisez ses gènes, et puis lui, il ne fait rien. Quoi, hein, c'est vous qui faites tout. Alors un mâle, c'est pareil. Hein, il faut que ses gènes à la femelle, ça la rend malade, enfin, elle fait un petit, et puis... et le mâle, lui, n'investit rien dans la descendance. La différence entre la grippe et le mâle, si vous voulez... Hein, et ce qui pose un problème sur lequel on va revenir, c'est qu'on n'a aucune particularité anatomique qui soit faite pour attraper la grippe. On ne fait pas exprès hein, d'attraper la grippe. On n'a pas de cellules exprès pour ça. Alors que les femelles, elles font exprès de se faire parasiter par les mâles. Hein, c'est indéniable. Hein. Elles ont toute une série de particularités qui sont manifestement issues d'une sélection pour qu'elles se fassent parasiter par les mâles. Donc comment se fait-il que des organismes ont évolué des mécanismes pour se faire parasiter? On peut présenter le paradoxe du sexe de cette façon-là. Je vais vous représenter autrement. Excusez-moi, je passe là-dessus. Et la question du pourquoi est donc devenue brûlante à partir du moment où, dans les années 70, on a commencé à se poser la question de pourquoi est-ce que les individus ont des comportements altruistes. Parce qu'au fond, le fait qu'une femelle se fasse féconder, ou parasiter comme vous voudrez, c'est altruiste de sa part. Puisque pourquoi elle va faire ça? Pour faire de la diversité. On vous l'a dit et répété pendant vos cours de SVT. Mais pourquoi elle veut se faire parasiter? Parce que ça fera de la diversité. Mais la diversité, c'est bon pour elle ou pour le groupe? C'est bon pour la population, c'est pas bon pour elle. Hein. Et même... Alors, donc, c'est un comportement altruiste comme le fait, vous savez, cette histoire de chien de prairie, hein, qui... Vous voyez, ce chien de prairie, là, il est en train de guetter pendant que les autres mangent. Et puis, s'il y a un prédateur qui arrive, il crie. Comme ça, ça prévient les autres. Les autres vont se cacher. Et lui, il a plus de chances que les autres de se faire manger parce que, comme il crie, c'est le premier qui est repéré. Donc, c'est vraiment très, très altruiste comme comportement. Et donc, la question de savoir pourquoi il y a des altruistes a été posée dans les années 70 à partir en éliminant la vision panglossienne. La vision panglossienne, au départ, c'était il y a des altruistes, c'est bien puisque c'est bon pour le groupe. Ça suffit à expliquer pourquoi il y en a. Et il y a eu des tas de gens qui ont réfléchi et fait des modèles là-dessus qui ont montré que ça ne marchait pas. La sélection de groupes qui consiste à dire, bah oui, il y a des groupes d'individus altruistes et ces groupes-là prolifèrent et donc tout va bien pour eux. Et les groupes où il y a plein d'égoïstes, et ben, eux, ils se cassent la figure. Et donc, voilà pourquoi il y a des altruistes, c'est que les groupes pleins d'altruistes marchent mieux que les groupes d'égoïstes. Et ça, tous les modèles montrent que ça marche. Sous une forme comme ça, ça ne marche pas. Ça, c'est très difficile d'arriver à faire marcher un processus comme ça, parce qu'il suffit qu'un égoïste de là vienne là-dedans, et c'est foutu. Donc on ne voit pas du tout comment pourraient exister des populations d'altruistes si jamais il y avait possibilité qu'ils soient constamment envahis par des égoïstes. Évidemment, un égoïste chez les altruistes, lui, c'est rêvé pour lui. Hein. Tout le monde l'aide et lui, il n'aide personne. Donc, il gagne. Alors, je vous mets pas les équations, hein, mais je peux vous dire que tout ça a été longuement travaillé et que cette vision de la sélection de groupe a dû être abandonnée. Alors, ça a été abandonné à la suite donc, d'une activité forte d'un dénommé George Williams, un Américain, qui a convoqué un colloque sur ces questions donc à la fin, au tout début des années 70. Ça s'appelait Group Selection, la sélection de groupe. Hein, et l'idée, c'était de dire que non, ça ne marchait pas. Il y avait un défenseur de la sélection de groupe qui s'est fait laminer à ce colloque. Et dans le livre, donc, il y avait, à ce colloque, il y avait un généticien très influent du XXe siècle, peut-être l'un des plus influents, en tout cas la deuxième moitié du XXe siècle, qui s'appelle John Maynard Smith. Et dans ce livre, John Maynard Smith écrivait un article sur le sexe. Et en disant que le sexe était de l'altruisme et que du coup on ne pouvait pas comprendre et que l'explication habituelle qui consistait à dire ça fait de la diversité, bah, c'est une explication qui présente les femelles comme des altruistes. Pourquoi ? On va y revenir. À la suite de ça, George Williams s'est passionné pour la question et a écrit Sex and Evolution en 1975. Puis peut-être l'œuvre maîtresse dans ce domaine, The Evolution of Sex de Maynard Smith en 1978. Et puis depuis des dizaines de livres et des milliers d'articles sur la question. Et où est le problème ? Eh bien, George Williams et Maynard Smith le présentent de deux façons différentes, mais c'est le même. Donc une femelle, comme je vous le disais, c'est un individu qui fabrique un gros gamète, enfin, un gros ovocyte, et il va jeter la moitié de ses chromosomes dans une poubelle qui s'appelle un globule polaire, qui va dégénérer. Tout ça pour que quoi ? Bah pour que le mâle puisse mettre ses gènes à la place. Quand je vous disais qu'elles le font exprès, c'est très clair. Et donc cette opération qui consiste à éliminer la moitié de ses chromosomes pour prendre les chromosomes du mâle à la place, vous voyez que, et même chez les humains, vous serez d'accord que c'est un comportement génétiquement déterminé et pas culturel. Hein. Donc les gènes déterminent une caractéristique de l'individu qui leur donne une chance sur deux d'être fichu en l'air. C'est très étonnant. Comment est-ce que la sélection a pu faire ça ? Et voilà, donc ça c'est la vision Williams qui a appelé ça le coup de la méiose, le coup avec un T. Hein. Maynard Smith, lui, il parle du coût de la production des mâles, mais c'est la même chose, en fait. Hein. Si vous imaginez une population avec des femelles sexuées, imaginez que chaque femelle fasse deux descendants. Ça vous fait une population stable. Quand dans un système sexué, si chaque femelle fait deux descendants, c'est-à-dire que chaque couple fait deux descendants, et donc vous avez une population stable. Imaginez qu'apparaisse une femelle qui ne fait pas de sexe, c'est-à-dire qui fait autant de descendants que les autres, deux, mais deux filles parthénogénétiques. Bien, la génération d'après, les deux filles, elles en auront fait quatre. Hein, et vous retrouvez le même calcul qu'avec Charlemagne tout à l'heure. En 10 générations, il y aura 1000 femelles asexuées pour une femelle sexuée. En 20 générations, ça fera 1 million. En 30 générations, 1 milliard. En 40 générations, 1000 milliards. Donc vous voyez qu'en quelques dizaines de générations, une femelle asexuée élimine les femelles sexuées et les mâles par la même occasion. Si apparaissait une femme asexuée, une femme parthénogénétique dans notre espèce, eh bien, on peut imaginer que ses descendants envahiraient toute l'espèce et que notre espèce perdrait le sexe et les mâles. Ils ont l'air atterrés, les messieurs-là. Il y a deux sortes de réactions des hommes face à cette éventualité. Hein, j'ai remarqué, il y en a qui disent « Quelle horreur, on va disparaître, etc. » Et il y en a d'autres qui disent « Pour les derniers, ça sera quand même cool, quoi, comme situation. Ce qui est intéressant, c'est que cette vision où les femmes arrêteraient de faire des fils, c'est un des thèmes de Françoise Héritier, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Elle propose l'idée que c'est une terreur ancestrale chez les hommes. Jusque-là, on pourrait croire que c'était juste un délire, ben non, en fait, il y a une bonne raison hein, d'imaginer que ça pourrait arriver. Alors pour le moment, rassurez-vous, chez les mammifères, on n'a jamais vu de parthénogenèse spontanée. Évidemment, on en a fait avec Dolly. Donc on sait que ce n'est pas impossible, mais on n'en a jamais vu se produire spontanément. En revanche, on a... Alors, bon. Premièrement, tout ce que je vous raconte là n'est vrai qu'à condition que les mâles servent à rien. Ce qui n'est pas toujours vrai. Chez les manchots, par exemple, vous savez qu'il faut absolument deux parents pour élever un œuf. Il n'y a aucun moyen d'arriver à faire un petit sans les deux parents, puisqu'il y en a un qui doit garder le petit pendant que l'autre va chercher à manger pendant quelques mois. Il y a quelques cas extraordinaires d'inversion des rôles. Donc les hippocampes, là, c'est la femelle qui pond ses ovules dans la poche incubatrice du mâle et c'est lui qui va incuber les œufs. Il y a le crapaud accoucheur aussi qui récolte les œufs à la sortie de la femelle et qui les met dans l'eau quand ils sont secs, qui les met au chaud quand ils ont froid, etc. Et pendant ce temps-là, il ne peut pas manger parce qu'il y a un tas d'œufs devant lui. Là. Il y a quelques poissons aussi célèbres, hein, comme les Aplochromis, où le mâle protège les petits en les faisant rentrer dans sa bouche quand il y a un danger. Hein. C'est super joli, tous les aquariophiles adorent ça. Mais on connaît très très bien ces cas parce qu'ils sont extrêmement rares, hein, les cas où c'est le mâle qui fait le boulot. Des cas où les mâles participent à égalité avec la femelle, bah, y a les manchots, il y a quelques oiseaux, mais enfin ça reste encore relativement limité. Des cas où les mâles participent un petit peu, mais enfin au fond on pourrait s'en passer quand même, hein, comme chez nous, y en a pas mal. Et puis la plupart des cas, le mâle ne contribue absolument pas à la production, à la survie des descendants. Bon, je passe là-dessus. Voilà, alors, le truc, c'est qu'il y a quand même des espèces qui font les deux à la fois. Alors, il y en a deux célèbres qui ont été beaucoup étudiées par Williams. D'une part, les rotifères. Alors, les rotifères, c'est des petites bêtes qui vivent dans les flaques d'eau et qui font de la parthénogenèse une partie du temps, puis qui, de temps en temps, font du sexe. Et vous avez aussi les pucerons. Les pucerons, je pense que si vous avez un jardin, vous connaissez ces bêtes-là. C'est extraordinaire parce que c'est là qu'on voit l'efficacité de la parthénogenèse. Donc voilà différentes espèces de pucerons en train de faire des petits par parthénogenèse. Voilà une autre. Alors quand le petit sort, enfin la fille sort, eh bien elle a déjà les ébauches de la génération d'après dans elle. Donc, le résultat, c'est que les pucerons prolifèrent. C'est extraordinaire la vitesse de prolifération. Vous avez un puceron qui arrive sur une tige et quelques jours après, c'est ça que vous trouvez sur votre rosier ou sur votre plante. Évidemment, parce que le sexe a cet avantage d'un facteur 2 puisqu'on ne perd pas du temps à faire des mâles. Mais il y a un autre avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être adulte pour pouvoir commencer à fabriquer des descendants. On n'a pas besoin de se casser les pieds à trouver un partenaire, être sûr que c'est le bon, etc. etc. Donc, évidemment, la reproduction asexuée est beaucoup plus efficace que la reproduction sexuée. Et c'est là que... donc, vous voyez ce qu'on a... qu'est-ce qui se passe? Je suis sur Firefox, là. Bon. C'est là que les choses sont remarquables. C'est qu'au fond, une femelle qui ferait pas de sexe, qui ferait de la parthénogenèse, se reproduirait ses gènes deux fois mieux, plus que deux fois mieux, qu'une femelle qui fait du sexe. Donc vous voyez pourquoi Maynard Smith propose l'idée que c'est un acte altruiste. Dire que ça fait de la diversité, c'est bien gentil, mais il faut expliquer comment ça peut compenser un des avantages d'un facteur 2 par génération. Et ça, eh bien, c'est le paradoxe du sexe, c'est la question pourquoi le sexe qui a été posée. Elle a reçu quelques réponses, bon je vais passer là-dessus, j'ai pas le temps. Alors des espèces dans lesquelles la parthénogenèse a envahi totalement l'espèce, et on en a plein. L'une des plus célèbres, c'est celle-là, parce que c'est assez esthétique. C'est donc les lézards fouette-queue du désert de Sonora. Et vous avez là deux femelles en train de s'accoupler. Elles n'en ont pas besoin sur le plan biologique, plan strictement biologique, puisqu'elles sont toutes les deux parthénogénétiques. C'est une espèce où il n'y a plus de mâles. Donc ces femelles n'ont plus de mâles. Elles produisent des descendants parthénogénétiques comme elles. Elles ne peuvent pas faire des descendants sans copuler. Donc elles font une parade sexuelle entre elles, et elles vont chacune pondre leurs œufs après, sans avoir échangé autre chose que des signaux. Vous voyez. Voilà, ça c'est un cas intéressant. L'autre Qu'est-ce que ça montre, d'ailleurs, ça ? Ça montre que ça ne fait pas si longtemps que ça, et bien sûr, maintenant, on le sait grâce à l'histoire de la phylogénie de ces espèces, ça montre que le sexe, elles l'ont perdu il n'y a pas très longtemps. Et je voudrais vous dire une chose, toutes les espèces asexuées sont d'anciennes espèces sexuées qui ont perdu le sexe. Il n'existe aucune espèce dont on puisse dire qu'elle n'a jamais acquis de sexe. Chez les poïcilopsis, ces petits poissons, eh bien, il y a aussi un cas amusant, puisque les femelles font des œufs parthénogénétiques, mais pour démarrer son développement, l'œuf a besoin d'un stimulus, c'est l'entrée du spermatozoïde. Il faut créer une asymétrie pour savoir où sera l'avant et l'arrière dans la future bestiole, etc. Et donc, eh bien, ces œufs parthénogénétiques donc, reçoivent un spermatozoïde et l'éjectent immédiatement. Mais le spermatozoïde, par son arrivée, a permis de déclencher le développement de l'œuf. On va voir s'il y en a qui suivent. Comment ? Oui, elles sont parthénogénétiques. Elles font que des filles. Vous n'avez pas de problème avec ça ? Ah, d'où vient le spermato ? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Elles sont obligées d'aller draguer des mâles de l'espèce voisine. Voilà. Donc, vous voyez, là encore, un cas où la parthénogenèse est sûrement récente et où il y a... Voilà, donc... Bon, des cas d'espèces totalement asexuées, on en connaît un peu partout. Ça, c'est une mousse. Les pénicilliums de votre roquefort, eh bien, ils sont asexués, issus d'une espèce sexuée qui s'appelle Talaromyces. Je pense qu'on nous parlera tout à l'heure des cloportes, je ne reviens pas dessus, des grenouilles vertes. Ça, c'est un cas tout à fait extraordinaire d'une parthénogenèse mâle. C'est des cyprès qui fabriquent un pollen avec tous les gènes du père. Et ce pollen va se développer dans l'ovule et va éjecter l'ovule et va à lui tout seul fabriquer l'embryon dans la graine. Donc les fleurs femelles de cet arbre ne servent plus que de mère porteuse, si vous voulez. Là, c'est de la reproduction asexuée, mais par la voie mâle. Voilà, bon, je vais vous... Oh, excusez-moi, je ne savais pas qu'il y avait... J'aurais dû enlever tout ça, j'ai pas... Alors, et il y a une espèce tout à fait incroyable, un groupe d'espèces qui sont les rotifères bdelloïdes. Ça vous disait peut-être rien, mais c'est donc un groupe de rotifères, ces petits machins qui vivent dans les flaques d'eau, qui vivent plutôt, oui, dans l'eau, vous trouvez sur la mousse, dans la rosée. Hein. Et eux, ils sont asexués, mais asexués depuis très longtemps. Et ils ont eu le temps de faire plein d'espèces asexuées. Donc, ils sont capables d'engendrer de la diversité quand même sans le sexe. C'est vrai que la mutation, a priori, ça suffit, mais bon. Voilà. Mais non seulement ils peuvent engendrer de la diversité, mais ils ont survécu très très longtemps sans sexe. Parce que voilà, la question, donc là, où on en est sur ces questions, comment expliquer le sexe ? Bon, deux éléments. Alors, deux grandes hypothèses, et puis deux scénarios qui se croisent avec ça. Première hypothèse, celle de la reine rouge. Alors, la reine rouge, c'est un texte de... Ouais, 5 minutes, je vais essayer de tenir... de Lewis Carroll dans De l'autre côté du miroir, qui est la suite d'Alice au pays des merveilles. Donc Alice est un pion blanc, elle saute un miroir, elle se retrouve pion blanc sur un échiquier, puis elle va le parcourir et elle rencontre les pièces adverses, et les pièces adverses sont rouges dans ce jeu d'échecs-là. Et quand elle rencontre la reine rouge, elle se retrouve en train de courir la main dans la main, et la reine court si vite que la fillette a beaucoup de mal à se maintenir à sa hauteur. La reine n'arrête pas de crier plus vite, et Alice sent bien qu'il est absolument impossible d'aller plus vite. Elle a l'impression que tout bouge autour d'elle et elle se pose des questions et la reine semble en deviner ses pensées, lui dit crie plus vite, ne parle pas. Alice ne songe pas à parler, elle se demande si elle pourra parler un jour d'ailleurs et elle continue à courir en silence, le vent siffle aux oreilles d'Alice, elle a l'impression qu'il lui arrache les cheveux, allons, allons, crie la reine plus vite. On aurait pu croire que leurs pieds effleurent à peine le sol. Et au moment où Alice se sent complètement épuisée, elle s'arrête et la fillette se retrouve assise sur le sol hors d'haleine et tout étourdie. La reine l'appuie contre un arbre, puis lui dit avec bonté, tu peux te reposer un peu à présent. Alice regarde autour d'elle, elle a l'air stupéfait. Mais voyons, s'exclame-t-elle, je crois vraiment que nous n'avons pas bougé de sous cet arbre, tout est exactement comme c'était. Bien sûr, répliqua la reine, comment voudrais-tu que ce fût ? Ma foi, dans mon pays à moi, répond Alice encore un peu essoufflée, on arriverait généralement à un autre endroit si on courait très vite pendant longtemps comme nous venons de le faire. Tu vis dans un pays bien lent. Ici, vois-tu, on est obligé de courir aussi vite qu'on peut, simplement pour rester à la même place. Ça, c'est le texte de Lewis Carroll. Évidemment, appliqué à l'évolution par Van Valen dans les années 70, l'idée est de dire que toutes les espèces sont constamment en train d'évoluer aussi vite que possible et que l'apparente stabilité du monde vivant est simplement le résultat du fait que tout le monde court à la même vitesse. Et s'il y en a qui n'arrivent plus à courir aussi vite que les autres, ils s'éteignent. C'est ça l'idée de Van Valen au départ. Et évidemment, on a appliqué particulièrement ce truc-là au problème des parasites. Hein, parce qu'au fond, il y a les parasites, les compétiteurs, les prédateurs. Vous voyez, si jamais il fait froid, ça sélectionne des résistances au froid. Et ben, les individus seront résistants au froid, puis tout ira bien. Mais le milieu climatique n'est pas d'une méchanceté telle que du fait que les individus se sont mis à s'adapter au froid, le climat change exprès pour les embêter et redevient chaud. Alors que les autres, hein, comme dirait Sartre, hein, c'est l'enfer, parce que à chaque fois qu'on change pour s'adapter à eux, eux, ils rechangent. Est-ce que je vous ai déjà demandé pourquoi les arbres ont des troncs ? C'est idiot, quand il y a du vent, ils tombent, ils seraient bien mieux à plat par terre. Seulement, s'ils étaient à plat par terre, il y aurait le voisin qui monterait un petit peu et qui prendrait la lumière. Alors, il faut remonter, vous voyez, puis à force, l'arbre, ça s'est fabriqué par la compétition pour la lumière entre des plantes qui poussaient tranquillement par terre au départ. Et toute cette idée donc d'une constante évolution des formes vivantes sous l'action de la compétition et sous l'action de la prédation et sous l'action du parasitisme. Mais les parasites, on peut être un peu inquiet parce que, oui, on a une longue durée de vie, nous. Eux, ils vont beaucoup plus vite. Donc dans cette course où nous, on est sélectionnés pour résister aux maladies, mais les maladies sont sélectionnées pour contrecarrer nos résistances, et a priori, elles ont un avantage sur nous. Il a fallu qu'on invente une espèce de système évolutif à l'intérieur de nous avec le système immunitaire pour arriver à contrecarrer leur vitesse d'évolution. Et donc l'idée, c'est que si vous vous clonez, le malheur, c'est que vos descendants hériteront directement de vos maladies, qui seront sélectionnés sur vous et qui seront directement opérationnels sur eux. Donc voilà un des avantages du clonage, l'ARN rouge. Ah, ça, c'est un premier élément. Et il y a des gens qui pensent que ça suffit à compenser le facteur 2 de désavantage du sexe. Le malheur, c'est qu'on peut trouver des modèles mathématiques dans lesquels on trouve que ça marche ou que ça ne marche pas, mais expérimentalement, on n'a jamais trouvé un avantage d'un facteur 2 lié à ça. Deux par génération. Deuxième hypothèse, la réparation de l'ADN. Pourquoi ? Bah parce que, vous voyez, si jamais j'ai un génome un peu muté, où est-ce que je pourrais trouver un autre génome avec lequel réparer le mien ? Bah, il faut que je trouve un individu qui n'ait pas les mêmes mutations que moi. Et ça, c'est un autre. Et donc, allez, hein, c'est ce que Maynard Smith appelait le modèle du moteur et de la boîte de vitesse. Hein. Si j'ai deux voitures, dont une a le moteur qui est cassé et l'autre la boîte de vitesse cassée, bah, en recombinant les deux, je vais pouvoir faire une voiture qui marche. Bien, je peux faire aussi une voiture qui a les deux cassés. Mais au fond, il vaut mieux avoir deux voitures dont une a les deux cassés et l'autre a tout qui marche plutôt qu'une voiture, deux voitures qui ont chacune un truc qui ne marche pas. Donc voilà, il y a un avantage au sexe par le fait que ça permet d'aller réparer l'ADN. Et là aussi, il y a des gens qui ont fait des modèles pour essayer de montrer que ça compensait le facteur 2. Et là encore, on n'a jamais rien trouvé expérimentalement qui explique ça. Alors maintenant, il y a eu des beaux modèles qui ont été sortis il y a une dizaine d'années en combinant les deux pour essayer d'arriver à ce fameux facteur 2. Alors avec des modèles, on y arrive. Expérimentalement, on n'y est jamais arrivé. Et donc voilà, je voudrais finir en vous disant que, au fond, peut-être que, bien sûr, que l'ARN rouge plus la réparation de l'ADN, ça fait que le sexe est nécessaire au maintien des espèces. Mais c'est du long terme. Sur le court terme, je ne pense pas qu'on arrivera jamais à trouver qu'il y a des avantages de deux aux formes asexuées, en général. Qu'est-ce qu'on constate quand on regarde la réalité ? On constate premièrement que, comme je vous l'ai dit, les formes asexuées sont plutôt récentes, sauf les rotifères bdelloïdes. Bon. Or, il est impossible que ça ne soit pas arrivé avant. Donc, si les formes asexuées sont récentes, c'est que celles qui étaient vieilles se sont éteintes. Donc, on peut admettre, et ça, je pense que tout le monde est d'accord avec ça, que les formes asexuées s'éteignent nettement plus vite que les formes sexuées, à cause de l'ARN rouge, à cause de la nécessité de réparer. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Vous voyez que si jamais vous avez des lignées qui font très facilement des formes asexuées, ben ces lignées vont avoir tendance à s'éteindre. Alors que si vous avez des lignées qui fabriquent des formes asexuées avec difficulté ou des formes asexuées qui possèdent un désavantage quelconque, ben ça devient un peu compliqué. Hein ? Chez les pucerons, et j'aurais dû vous raconter ça avant, chez les pucerons qu'on a étudiés par exemple avec mes collègues de l'INRA de Rennes, il y a des formes asexuées, des formes qui zappent le sexe. Hein, vous savez comment ça se passe, le sexe chez les pucerons ? Peut-être j'aurais dû, j'ai sauté ça, j'aurais pas dû. Hein. Vous avez des œufs qui sont produits en hiver, ils éclosent au printemps, et il y a des générations de parthénogenèse. Et puis à l'automne, les pucerons refabriquent des mâles et des femelles. Et ces mâles et ces femelles vont se rencontrer sur des arbres en général, et puis ça, ils vont faire des œufs, et ça recommence. Il y a des formes qui zappent les œufs, qui zappent le sexe, qui continuent à faire de la parthénogenèse pendant tout ce temps-là. Et ce qu'ont montré Jean-Dine Radred, c'est qu'en fait, ces formes augmentent au cours des générations. On en trouve de plus en plus, sauf quand il fait froid. S'il y a un bon coup de gel, qu'est-ce qui se passe? Bah, tous les pucerons parthénogénétiques meurent parce qu'ils ne font pas d'œufs. Vous avez vu, c'est de la parthénogenèse vivipare qu'ils font. Et donc, les sexués sont maintenus non pas parce qu'ils font de la diversité, mais parce qu'ils font des œufs. D'accord. Donc voilà, je vous reprends je repars de cet exemple-là et je vais revenir où j'en étais. Donc, je voudrais finir en vous disant que le sexe pourrait facilement être perdu. Le coût de la méiose ou de la fabrication des mâles est trop fort pour être compensé par des avantages à court terme. Mais dans une espèce sexuée, s'il apparaît une forme asexuée, elle va envahir l'espèce. Et l'espèce s'éteindra à long terme. Mais elle va envahir l'espèce seulement si elle ne possède pas des avantages par ailleurs comme le coût des pucerons. Si ma forme asexuée est très efficace, mais que malheureusement pour elle, elle ne sait pas faire des œufs et que du coup elle ne résiste pas à l'hiver, et ben elle, ça ne l'envahira pas. Donc en fait, s'il apparaissent des formes asexuées qui ne soient pas plombées par un désavantage comme ça, elles vont envahir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que le sexe qui va être maintenu dans les espèces où les asexués ne peuvent pas envahir, et le sexe va être perdu dans les espèces où les formes asexuées peuvent envahir. Comme les espèces asexuées s'éteignent plus vite que les autres, eh bien, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester les espèces qui sont incapables de faire de la reproduction asexuée, soit comme nous, complètement incapables, tout seuls, soit comme les pucerons, incapables, parce qu'il y a besoin d'eux pour résister au froid. Et donc, la plupart des espèces sont sexuées, non pas du fait qu'il y a une sélection individuelle pour faire du sexe, effectivement, les femelles y perdent à faire du sexe, mais parce qu'il y a une sélection entre les lignées, entre les espèces, hein, et que c'est les espèces qui sont incapables de perdre le sexe qui ont été conservées par l'évolution. Voilà. Je vais m'arrêter là.
Merci beaucoup. Et donc, la discussion est ouverte. Je pense que certains ont dû être remués par toute cette présentation. Voilà, alors on y va. Je vous apporte un micro et donc je vous demande une certaine discipline de toujours parler avec un micro à cause de l'enregistrement.
Oui, vous venez d'expliquer que que la reproduction asexuée s'éteignait, mais pourquoi cette exception des rotifères?
Ah, les bdelloïdes. Alors, il y a des discussions là-dessus. Premièrement, on se pose la question de savoir s'ils ont trouvé un moyen de faire de la recombinaison sans qu'on sache comment. Il y a plein de gens, il commence à y avoir pas mal de gens qui les étudient maintenant. Mais effectivement, c'est une question, c'est une vraie question, puisqu'ils ont fabriqué quand même... Enfin, selon les systématiciens, il y a plusieurs dizaines d'espèces sans sexe, hein, donc et sans s'éteindre. Ils ont l'air d'être très vieux, mais c'est simplement une queue de distribution. C'est-à-dire quand on regarde les derniers articles qui sont sortis là-dessus, avaient tendance à dire faut pas s'exciter trop sur cette question. C'est comme Jeanne Calment, si vous voulez. Bon, pourquoi est-ce que les humains ils vivent pas beaucoup plus de 100 ans en général? Paf, il y en a une qui arrive à dépasser les 120. Est-ce que vraiment elle avait quelque chose de particulier ou est-ce que c'est juste statistiquement, hein, la probabilité si une probabilité d'extinction par unité de temps est à une certaine valeur, et ben vous savez que vous allez avoir certaines formes qui vont durer beaucoup plus longtemps que d'autres, simplement par hasard. Et donc, voilà, pour le moment, on s'oriente plutôt vers ça. Mais ce n'est pas impossible que ces rotifères aient développé des caractéristiques tout à fait particulières. Moi, je vous avoue que l'existence même des formes asexuées, comme les lézards, fouets de queue que je vous ai montré, les poecilopsis, les grenouilles vertes, pour moi, montre à quel point il y a impossibilité qu'il y ait un avantage à court terme d'un facteur 2 au sexe. Parce que si vraiment le fait qu'il y ait des parasites à la reine rouge ou la réparation de l'ADN nécessitait était tellement nécessaire que ça faisait un facteur 2 par génération, on devrait voir toutes ces espèces s'éteindre à toute vitesse. Un facteur 2 par génération, c'est tellement énorme. Donc le fait qu'il y ait des lézards fouette-queue, le fait qu'il y ait des formes asexuées à peu près dans tous les groupes, sauf les mammifères et les oiseaux, pour moi, est presque une démonstration immédiate du fait que c'est pas, qu'il n'y a pas d'avantage à court terme suffisant pour contrecarrer le désavantage d'un facteur 2. Donc voilà, à partir du moment où c'est possible, la question de savoir combien de temps ça peut durer, bah ça on n'en sait rien, effectivement. Vous comprenez que c'est vachement difficile de travailler à cette échelle-là. D'abord, je voudrais vous dire que c'est mal vu chez les évolutionnistes de regarder les effets de sélection à l'échelle au-dessus de l'individu. Parce que justement, ça rappelle des vieilles histoires panglossiennes. Et puis deuxièmement, c'est très difficile de tester ces choses-là. On n'a pas de données paléontologiques sur le statut sexué ou non sexué des espèces, en général. Donc on ne sait pas quelles espèces étaient asexuées dans les registres fossiles en général. Donc on a très très peu de données sur les extinctions relatives des formes sexuées ou asexuées. On est obligé de les inférer de la distribution qu'on trouve aujourd'hui.
Où se situe l'hermaphrodisme dans cette évolution de la sexualité?
Alors, une fois qu'on a différencié des gamètes mâles et des gamètes femelles, on peut... En fait, je vais en parler un peu sur les plantes tout à l'heure, parce qu'évidemment, c'est chez les plantes, c'est l'hermaphrodisme, c'est la règle. Alors que l'hermaphrodisme est la règle dans certains groupes d'animaux, mais dans une minorité des groupes d'animaux. qu'est-ce qui fait qu'on développe une stratégie hermaphrodite ou une stratégie à sexe séparé? Il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Il y a des modèles assez bien de théorie des jeux qui ont montré que, au fond, tout dépend si c'est plus efficace de faire un individu qui sait faire les deux ou des individus qui font que l'un ou l'autre. C'est-à-dire, est-ce que on y perd, partant de l'idée d'un hermaphrodite, demandons-nous s'il investissait un peu plus dans la fonction mâle, est-ce qu'il perdrait beaucoup sur le plan de la fonction femelle ou pas? Et il est clair que pour des individus comme les plantes, en général, c'est plus rentable, il y a des investissements communs dans la fonction mâle et dans la fonction femelle, comme la fleur, etc. Et du coup, c'est quand même assez facilement rentable de faire les deux en même temps. Alors que pour les... Et en plus, il y a quand même un danger à ne pas le faire parce que la mobilité des plantes n'est pas très grande. Même si elles peuvent déplacer leur pollen quand même. Mais alors que chez les animaux, le fait d'essayer de faire les deux en même temps, ça, chacune des deux fonctions pèse lourdement sur l'autre.
Y a-t-il d'autres questions?
C'est deux demandes de clarification. La première, c'est sur les pucerons, en fait. On a l'impression, sur le schéma que vous avez montré, qu'il y a... que les mâles apparaissent à un certain moment dans le cycle. Donc si c'est ça, pourquoi ils apparaissent, enfin comment ils apparaissent?
Non seulement les mâles, mais aussi les femelles sexuées, hein, parce que voilà. les femelles qui sont tout le long du cycle, elles sont parthénogénétiques. Donc ça, c'est du même ordre que la différenciation cellulaire. Il y a la photopériode induit une modification développementale chez les individus. Ils se mettent à produire... Alors, chez les pucerons des céréales que j'ai étudiées avec les gens de l'INRA de Rennes, à ce moment-là, se mettent à être produits d'un côté des mâles et de l'autre des femelles encore asexuées, mais qui vont produire des femelles sexuées, qu'on appelle des gynopares. Ce qui a un avantage, c'est que ça fabrique un sexe ratio déséquilibré en faveur des femelles, donc ça augmente la fertilité du système. Mais c'est la photopériode qui induit, exactement comme la photopériode peut induire la floraison chez une plante, elle peut induire la production de mâles chez les pucerons. Quoi.
Donc en fonction des conditions environnementales, la parthénogenèse peut produire soit des femelles parthénogénétiques, soit des individus sexués, c'est ça?
Oui, absolument.
Ou
absolument.
Soit d'autres, oui, formes fait, intermédiaires.
Il y a une autre chose d'ailleurs qui est plastique, c'est le fait de produire des pucerons ailés. Puisque pendant la phase parthénogénétique, souvent les pucerons ne sont pas ailés. Et puis quand la densité devient trop grande, eh bien apparaissent des individus ailés qui vont aller coloniser d'autres sites. Et ça, c'est pareil, ça se produit, c'est fonction de l'environnement.
D'accord.
C'est très intéressant les pucerons.
Oui, c'est vrai. Vous avez dit, il n'y a aucune espèce asexuée qui n'a été sexuée avant ou qui n'a jamais acquis le sexe, ouais, dans son histoire. est-ce que c'est aucune espèce de vertébré ou est-ce
ah non,
que
aucune espèce
c'est aucune
au total.
Espèce
non, non, moi je. Alors, ouais, j'ai pas eu le temps de vous en parler. Peut-être. Tiens, je merci pour la question. Au fond, je pense que si on réfléchit à l'origine de la vie, hein, bon, on a toujours des images extraordinaires en tête. Bon, je vais juste vous montrer des stromatolites, mais je ne crois pas du tout à une origine de la vie clonale. Ben, je pense que ça, c'est un mythe absolu. Si vous réfléchissez à ce que ça devait être que les premières formes vivantes, c'était des agglomérats de molécules autoproductibles avec des cycles, etc., il n'y a aucun moyen d'imaginer que ces machins-là étaient isolés, chacun de son côté. Donc, au fur et à mesure que les systèmes vivants se sont développés, ils ont eu à s'isoler, effectivement, de manière à se protéger contre des parasites sûrement, de manière aussi à pouvoir acquérir des caractéristiques propres. Mais si des formes s'étaient isolées très tôt dans le processus d'origine de la vie, elles étaient foutues. Elles n'auraient jamais pu réparer leurs erreurs. Elles auraient jamais... Donc, je suis convaincu que dès le sexe a commencé dès l'origine de la vie. Je me souviens qu'un jour, Jacques Testard avait écrit un article où il avait écrit « Au commencement était le clonage ». Alors, je l'ai appelé, je lui ai dit « Mais t'as vu ça où ?» Il me dit « Bon, je sais pas, on me l'a dit. » Enfin, je lui raconte ce que je vous dis là, il me dit, mais oui, tu as raison, en fait, au commencement, était la partouze. Évidemment, c'était tout le monde avec tout le monde au début. Et donc, il y a eu progressivement une restriction des échanges et une régulation de ces échanges. Et ce qu'on voit comme sexe aujourd'hui, c'est le reste de ces échanges anarchiques du début. Mais le sexe aujourd'hui, il faut le voir comme une canalisation d'échanges originels et certainement pas comme une invention a posteriori. Génial, à partir de trucs qui se clonaient, puis il y en a un qui a dit oh, ça serait super si on échangeait des trucs, c'est pas possible.
Non, mais la confusion ici, c'est qu'on confond le sexe et les sexes.
C'est-à-dire, ah oui, absolument.
Quand il dit qu'il y a du clonage au début, je pense qu'il veut dire qu'il n'y avait pas des sexes séparés.
Non, non, Testard, hein, tu le connais, c'était vraiment à propos du. Non, mais on en a reparlé après.
Ouais, d'accord.
Non, non, je pense que l'idée que ça commençait par du clonage est une idée. Et ça, c'est une rumeur urbaine dans le milieu des biologistes, mais tout le monde l'a dans la tête sans qu'on lui ait jamais dit, en quelque sorte. Hein, la plupart des biologistes ont cette image-là, tant qu'ils n'y réfléchissent pas. Évidemment, dès qu'on en réfléchit, on se dit, bah non, c'est pas possible, ça n'a pas pu commencer avec des machins totalement isolés. Mais si on n'y réfléchit pas, c'est ça qu'on a dans la tête, c'est ça qu'on a tous eu dans la tête. Et en plus, c'est quand même colporté. Il y a quelque temps, il y avait eu une émission sur le sexe à la télé. Ils sont venus m'interviewer, j'étais encore à Orsay à l'époque, je me souviens. Et la question, c'est quand a commencé le sexe? Et je leur dis, dès le début, eh bien, on coupe. Dites-nous quand est-ce que ça a commencé? Je dis, à l'origine de la vie, il y a eu du sexe tout de suite. Ah non, ils sont repartis, ils n'ont pas voulu. Ils voulaient une date. Alors évidemment, le sexe au sens restreint, la méiose et la fécondation, ça a dû arriver au début des eucaryotes, on ne sait pas quand, hein, mais c'est quand même partagé par quasiment tous les eucaryotes, donc ça a dû arriver assez tôt, mais ça, c'est une invention.
Oui, mais quand on entend sexe, on pense à reproduction sexuée, en fait. On ne pense pas à juste échange génétique, c'est pour ça.
Ah oui, mais vous voyez, si jamais on dit reproduction sexuée, le sexe a commencé à telle période, et ben les gens pensent, avant, c'était du clonage. Ça, systématiquement. Donc, moi, je suis d'accord que les gens pensent que c'est ça qu'on entend, mais malheureusement, on entend un truc et on entend l'autre en même temps. Et l'autre, il est faux.
Oui, dans la citation de Testard où « Commencement était la partouze », j'entends ce que dit Bachofen au début du, enfin, au 19e siècle, repris ensuite par Engels, qui justement explique qu'au début de l'humanité, alors je ne sais pas bien par quel moyen il a trouvé cette idée-là, qu'au début de l'humanité, évidemment, tout le monde avait des rapports sexuels avec tout le monde. Et que le progrès de l'humanité, c'est précisément qu'il n'y ait plus de rapports sexuels. Bon, c'est une manière d'expliquer la prohibition de l'inceste, etc. Est-ce que ça vous évoque quelque chose ou...
Mais si on regarde nos plus proches parents, hein, par rapport à l'humanité, on a d'un côté les chimpanzés. Nos plus proches, on a les chimpanzés qui sont les plus proches et les bonobos, avec chez les chimpanzés une structure sexuelle relativement hiérarchisée et chez les bonobos, alors effectivement, une forte propension à ce que tout le monde copule avec tout le monde. Et puis de l'autre, alors les gorilles, où ça rigole vraiment pas. Hein, c'est-à-dire que les femelles prennent un très gros risque si elles vont avec un autre mâle que le leur. Donc, je ne peux pas dire, vous voyez, entre les bonobos d'un côté et les gorilles de l'autre, sincèrement, je ne peux pas dire que l'origine biologique de notre branche évolutive soit a priori nettement plus leste sur le
non,
plan sexuel.
Non, c'est juste l'analogie qui me semblait troublante, mais voilà. Merci.
Alors, une dernière question.
Oui, bah, je voulais un peu revenir sur ce que qu'a dit le monsieur juste avant là, par rapport à la parthénogenèse. Pour le puceron, donc on voit qu'à l'échelle d'une année, finalement, pendant quelques mois, il n'y a que des femelles, et puis après, il y a à nouveau des mâles qui apparaissent. Ma question, c'est qu'est-ce qui nous dit finalement que sur, sur toutes les espèces parthénogénétiques, finalement, il n'y aura pas à un moment donné également un déclencheur quoi.
Oui, alors ça on le sait quand même. Parce qu'en analysant les génomes, on sait reconnaître la structure génétique d'une forme sexuée et d'une forme asexuée, ce n'est pas la même. Dans une forme sexuée, justement, à cause de ce que je vous ai raconté sur Charlemagne, tout le monde partage des gènes et chaque individu est un tirage au hasard dans un pool génique général. Alors que dans une forme asexuée, chaque clone possède sa structure génétique à soi, qui est totalement différente de la structure génétique du clone d'à côté. Et donc... En étudiant maintenant au niveau des génomes ces formes, on est capable de dire si vraiment ils sont asexués ou pas.
Merci beaucoup. Donc, si vous avez d'autres questions, elles pourront venir dans la journée. Et donc, on va avancer. On va passer à une table ronde qui va durer environ une heure à partir de maintenant. Donc, je vais demander à Thierry Laudet de venir. Donc Pierre-Henri reste ici et René Haber aussi, s'il vous plaît. Donc pendant qu'il s'installe, je voudrais dire quelques mots donc de Thierry Laudet et de René Haber que vous n'avez pas encore vu. Donc Thierry Laudet est biologiste aussi, il est professeur en écologie évolutive et spécialiste de la sexualité des animaux. Alors il se partage entre l'université d'Angers et Rennes. Il a été co-directeur d'une unité qui s'appelait Paysages et Biodiversité, puis il a intégré en 2006 une UMR qui s'appelle EVE, Éthologie, Évolution et Écologie à l'Université Rennes 1. Il a écrit un certain nombre d'ouvrages autour de la génétique des populations et stratégie de reproduction des animaux. René Haber, si vous voulez bien aussi venir ici. Donc René Haber est un ancien élève de l'école normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé de biologie, docteur en sciences et professeur à l'université Paris 7, Diderot. Il est toxicologue et ancien directeur d'un laboratoire INSERM CEA qui s'appelle Gamétogenèse et Génotoxicité. Et il s'intéresse au développement des fonctions de reproduction et à ses perturbations. Et alors, si vous ne le connaissez pas, ses travaux et ceux de son équipe ont une incidence aujourd'hui très importante, puisque ces travaux sont à l'origine de l'interdiction du bisphénol A dans les produits alimentaires. C'est bien ça. Voilà. Donc, je vais les laisser pendant une heure continuer. Et d'évoquer pendant cette heure la définition du sexe. Donc je laisse Pierre-Henri Gouillon manœuvrer pendant cette heure. Voilà, donc il est 10h40, nous finirons à 11h40.
Bien, bonjour à vous tous. Oui, je vais essayer de faire une petite présentation, mais après ce qui vient de suivre, évidemment, vous allez sans doute sentir quelques éléments de répétition. Je me suis plutôt engagé à à poser des questions d'un point de vue très généraliste pour essayer de comprendre pourquoi, finalement, on peut maintenir des comportements sexuels dans le cadre de la biologie et pour essayer de vous proposer un petit scénario qui, ma foi, semble répondre déjà à quelques petites questions importantes. Alors j'ai intitulé ça une révolution sexuelle au Cambrien, ce qui évidemment devrait normalement plus intéresser les biologistes, puisque le Cambrien c'est quand même une période extraordinairement archaïque, alors que pour beaucoup de biologistes le sexe apparaissait comme une innovation récente. Mais évidemment là du coup il n'y a plus de surprise dans la mesure où on nous l'a dit. Donc grossièrement voici le plan que je vais suivre. On va donc commencer par cette première question, l'idée que le sexe a pu améliorer les choses. Pendant très 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 longtemps, on a figé un petit peu la biologie évolutive à travers cette vision que ça améliorait les fonctions, y compris d'ailleurs si on suppose que ça améliore la fonction de diffusion des gènes. Il n'empêche qu'il y a derrière toute cette idée, une idée un peu eugéniste d'amélioration de la manière de fonctionner. Le comportement serait une amélioration de notre manière d'être. Le gène lui-même pourrait s'améliorer, la transmission des gènes pourrait être améliorée grâce à des corps, à des événements qui seraient de plus en plus parfaits. Avec une hypothèse quand même qui est sous-jacente malgré tout au néo-darwinisme, c'est l'idée que la sélection serait plus ou moins la sélection des meilleurs. Alors je sais que la biologie évolutive a beaucoup évolué, et elle mérite beaucoup d'évoluer parce qu'elle a commis quand même pas mal d'erreurs. Il faut se rappeler aussi qu'au fondement de la génétique, on a retrouvé tout un ensemble de théories racistes qui sont amplement développées, par exemple par des historiens comme André Pichot, qui ont bien montré les relations entre le néo-darwinisme et une partie de ces idées-là. On va passer assez vite dessus. Concrètement, c'est vrai, d'un point de vue évolutif, il y a quelque chose qui est majeur et qui est facile à comprendre, c'est que les individus qui restent sont ceux qui se sont reproduits. Alors, la tension est forte de penser que la reproduction est évidemment quelque chose qui est directement associé à la relation que peuvent avoir deux individus très différents, qui sont un mâle et une femelle. Étrangement, quand on regarde le monde vivant, alors je suis un petit peu plus animalo-centré, si je puis dire, dans la mesure où je suis d'abord un biologiste animal, donc je vais vous présenter surtout des photos animalières. Étrangement, quand on regarde l'histoire des espèces, on s'aperçoit qu'à chaque fois, on a deux sexes qui se rencontrent et qui mettent en effet une énergie considérable à cette rencontre, qui peuvent même parfois en mourir. C'est très très compliqué de se rencontrer, de s'apprivoiser, de s'accepter. Et pourtant, il y a quelque chose d'étonnant, c'est qu'à chaque fois, il y a une espèce de consentement nécessaire, consentement qui va passer depuis les paramécies à un niveau de sensibilité cellulaire, jusqu'à un niveau évidemment beaucoup plus acquis par le droit et par le raisonnement culturel dans nos sociétés. Mais entre les deux, on a ce qu'on appelle la parade sexuelle, qui est évidemment d'abord une entreprise de consentement de cette activité étrange. Et donc, on peut baptiser notre évolution comme étant une grande histoire d'amour. Évidemment, le mot est un petit peu gonflé, puisque dans cette histoire d'amour, on voit très bien que les deux êtres apparaissent très différents. Les mâles vont être souvent armés, vont disposer d'éléments qui sont là, a priori, pour servir à quelque chose. C'est du moins l'une des définitions qu'on pouvait donner au départ. On a l'impression, en effet, que si la frégate superbe gonfle ainsi sa pose jugulaire, c'est tout de même pour essayer de fabriquer quelque chose. Donc, vous voyez, on est en plein dans un système de finalité qu'a très bien critiqué M. Gouillon tout à l'heure, et on se retrouve finalement prisonnier par tout ce processus particulier. Tous ces caractères extravagants peuvent évidemment proposer des ensembles de séductions qui vont quand même paradoxales. Par exemple, le nez du nazique, évidemment, il n'a pas pu se former morphologiquement sans qu'il y ait quelque chose qui conduit à cela. Donc on s'aperçoit que ce processus amoureux, ce processus de rencontre des individus va conduire à des modifications morphologiques. Ça, c'est un fait qui est très difficile à contester. En revanche, la question, c'est comment se fait-il, quelque élément qui ait pu intervenir, comment se fait-il que ces choses qui apparaissent quand même comme des handicaps de survie, les couleurs, la queue du paon qu'on vous a montré tout à l'heure, évidemment, ça ne constitue pas un avantage pour la survie de l'individu qui possède ça. On le voit bien d'ailleurs, puisque par exemple chez le faisan, la femelle va être très peu colorée, alors qu'au contraire, le mâle l'est beaucoup plus. Et on voit donc bien que dès qu'il s'agit de se protéger un peu, on va essayer d'abandonner en partie ses couleurs. Alors on atteint évidemment un dimorphisme sexuel considérable chez les espèces. Chez l'humain, le dimorphisme est aussi relativement visible. En plus, il est souvent, on va dire, amélioré culturellement par tout un ensemble d'habitudes capillaires, etc., par exemple, qui font qu'on essaye de bien marquer la distinction des sexes, tout ça pour une opération qui finalement s'avère extraordinairement coûteuse. En outre, le succès du sexe n'est évidemment pas garanti du tout. C'est-à-dire qu'on peut faire tout un ensemble d'efforts sans pour cela qu'on aboutisse à un résultat. La plupart de ces efforts conduisent quand même souvent les mâles à se taper dessus.
Donc il y a des attitudes très agressives, il y a beaucoup de perte d'énergie également, qui conduit évidemment à nous interroger sur qu'est-ce que c'est que cette énigme. Alors très rapidement, évidemment, on va revenir sur la problématique du coup d'améiose, puisque vous avez remarqué, quand on parle du sexe, très souvent en biologie, on s'aperçoit qu'il est totalement assimilé à un processus qu'on appelle la méiose, et qui consiste en une division cellulaire inégale. Division cellulaire qui fait qu'on va se retrouver avec deux cellules haploïdes, c'est-à-dire deux cellules à un seul jeu de chromosomes, alors qu'au départ, nous sommes des êtres diploïdes, en ce qui concerne en tout cas la plupart des espèces. On s'aperçoit que le coût de la méiose est considéré comme double à cause de la méiose et ensuite à cause du maintien des mâles, mais il y a d'autres coûts qui s'y ajoutent. Par exemple, il y a la production des annexes, les coquilles, tous les éléments que les femelles vont produire. Ça coûte une énergie très importante. Et puis, les mâles ne sont pas les seuls à ne pas coûter. Voilà mon petit faisan, par exemple. On voit bien la différence entre les deux espèces. Mais le coût du maintien des mâles, c'est aussi le coût des batailles qui vont se produire derrière. Et puis, le sperme est produit en une quantité extravagante par rapport à son utilité. Un seul spermatozoïde, théoriquement, pourrait suffire. Or, on en produit quelquefois. Le porc, par exemple, c'est près de quelques milliards de spermatozoïdes à chaque éjaculat. Autant dire que ça fait quand même beaucoup de choses perdues. Alors, il n'est pas certain, bien sûr, que le coût soit tout à fait équivalent. En revanche, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que quand on regarde, en tout cas, la plupart des animaux, eh bien, on va dire, je vais donner un chiffre de 95% qui est tout à fait contestable, mais en gros, la plupart des espèces animales pratiquent le sexe. Donc ce qui va m'intéresser, moi, pour arriver à réfléchir à cela, c'est de se poser justement la question comment la chose a pu arriver là. Alors évidemment, la question est posée ici d'une manière pour le grand public, immédiate, c'est-à-dire à quoi ça sert. Première hypothèse, on l'a vu tout à l'heure, c'est le sexe pourrait servir à réparer de l'ADN. C'est un mécanisme de réparation qui permettrait, en quelque sorte, puisque à chaque fois qu'il y a division des deux brins, ils vont se retrouver en équivalence pour pouvoir se reconstruire. Eh bien, dès qu'il y a une petite anomalie, cette reconstruction permettrait une réparation. Et puis, la deuxième grande idée, toujours dans cette hypothèse-là, c'est que ça permettrait, par un mécanisme le mécanisme permettrait d'écarter toutes les mutations qui ne seraient pas favorables. Les mutations non favorables, grâce au sexe, seraient donc remises en cause d'une génération à l'autre. En gros, ces premières séries d'hypothèses, c'est de nous dire le sexe est conservateur, il nous conserve. La deuxième série d'hypothèses, c'est... les réponses d'abord. Je pense que les bactéries vont montrer une limitation extraordinaire de leur capacité sexuelle, et vous allez voir que je prétends moi que les bactéries n'ont pas de sexe, mais c'est un petit détail qu'on va réanalyser tout à l'heure. En fait, c'est des analyses qui ont été effectuées par des chercheurs comme Redfield, par exemple, qui nous montrent que la plupart du temps, les échanges bactériens ne sont jamais complets. Et au lieu d'être un échange vraiment des chromosomes importants, du chromosome de la bactérie, on se retrouve finalement avec simplement un petit peu d'ADN qui est pris. Et les trois options que les bactéries prennent, le plus souvent, sont des options qui sont non seulement partielles, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'ADN d'échangé, souvent c'est univoque, c'est-à-dire que c'est une bactérie qui mange l'ADN de l'autre, et en outre, cette modification ne va pas faire intervenir d'importantes... c'est pas quelque chose qui est commun chez les bactéries, c'est-à-dire que les bactéries le font de temps en temps et relativement rarement. Le deuxième point, c'est à propos des rotifères bdelloïdes. On a en effet des animaux qui sont théoriquement considérés comme asexués. Même si, a priori, on voit que ce sont des femelles, les animaux parthénogénétiques, comme par exemple les rotifères bdelloïdes, n'ont pas de mauvaises mutations. C'est-à-dire qu'ils sont capables de se développer de la même manière que des animaux sexués. On a donc affaire à des groupes qui sont finalement tout aussi diversifiés que les autres. Deuxième hypothèse, le sexe favoriserait la variation. Alors la variation des gènes favoriserait l'adaptation à l'environnement. Donc là, je vous ai présenté un des animaux capables, comme notre ami l'hippocampe, de tenir ses œufs. Beaucoup d'animaux à fécondation externe, c'est le mâle en fait qui s'occupe de la ponte, parce qu'il veut aussi être sûr qu'un autre mâle ne viendra pas s'en occuper à sa place, et ou par exemple la féconder. Et une autre hypothèse qui est très connue, donc sur laquelle on a greffé la théorie de la reine rouge, c'est que, évidemment, à partir du moment où il y a une grande variation, ça peut réduire le risque de maladie, le risque de pathogènes qui vont beaucoup plus vite à muter que nous-mêmes. Et par conséquent, le sexe, en redistribuant les cartes, permettrait de redistribuer en quelque sorte les moyens de se préserver. Alors sur cette hypothèse sur le sexe fabrique de la variation, il y a des critiques qu'on peut faire facilement, c'est que la recombinaison sexuée casse en général l'association des gènes favorables, et donc elle n'est pas aussi simple c'est pas aussi simple de construire des corrélations qui vont édifier des corps qui vont bien tenir le coup, surtout à l'échelle des organismes les plus simples. Le deuxième point, c'est que les animaux asexués n'ont pas forcément plus de parasites que les autres. Alors là aussi, c'est très contestable. Il y a des chercheurs qui montrent que certaines populations asexuées auraient plus de parasites. Mais on sait, par exemple, chez les gecko-parthénogénétiques, que non, on n'a pas trouvé qu'il y en avait plus. En outre, comme on va comprendre petit à petit d'où viennent ces animaux asexués, on va peut-être un peu mieux cerner pourquoi, finalement, ils peuvent parfois montrer des faiblesses par rapport aux animaux sexués. En tout cas, à mon avis, il faut prendre le problème autrement. Alors pour cela, on va proposer une autre manière de répondre. D'abord, se rappeler que le sexe pourrait être une réponse que des espèces qui n'ont pas de sexe n'ont pas eu à faire. Une réponse donc à un problème qu'elles n'ont pas eu à résoudre. Alors évidemment, ce n'est pas difficile de se rappeler que la reproduction n'a pas besoin de sexe, comme on le voit ici chez Néréis, excusez-moi, j'ai la bouche un peu sèche. Et que le sexe n'est pas forcément la reproduction. Bon, voilà ici tout un ensemble d'activités. Il ne vous échappera pas que vous voyez ici deux lions et qu'a priori, leur étreinte a fort peu de probabilité d'aboutir à un événement reproducteur. De la même manière pour cette fellation chez l'orang-outan. Excusez-moi. Ou encore, vous le voyez là, chez ces deux putois mâles qui sont bien actifs dans leur enclos et qui n'ont pas du tout l'intention de faire autre chose. L'un de ces deux putois, d'ailleurs, a refusé systématiquement toute tentative de reproduction avec une femelle. C'était héros, une femelle, mon Dieu, quelle horreur. Bref, on peut essayer de prendre le problème un peu différemment. Alors d'abord, on peut réfléchir à quand a commencé le sexe. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, comme M. Gouillon l'a fort bien dit tout à l'heure, probablement que ça a commencé il y a très très longtemps, la vie. Et donc, si la vie a commencé il y a très très longtemps, on pourrait peut-être s'intéresser à des choses qui sont relativement anciennes. Par exemple, je crois que c'est une équipe de Poitiers qui a travaillé sur cette chose-là, mais il y en a d'autres équipes qui l'ont aussi développée. Si on peut admettre que certaines espèces multicellulaires, que certains eucaryotes multicellulaires datent de très 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 longtemps, ben il faut penser que les premiers eucaryotes unicellulaires sont plus récents. Alors les eucaryotes, ce sont grossièrement, j'ai mis des mots pour le grand public, protozoaires, on m'excusera, j'espère les biologistes, protozoaires, champignons, plantes et animaux. Ce qu'il y a comme énorme différence entre les eucaryotes et les autres, c'est que les eucaryotes pratiquent le sexe, du vrai sexe et du sexe sans arrêt. Et donc, on peut presque être persuadé que quelque chose a dû se passer à ce niveau-là. Alors voilà le scénario que j'ai proposé sous le nom des bulles libertines. En gros, les premières molécules biologiques n'ont pu vraiment se mettre en place et devenir complexes qu'à la condition d'être encapsulées à l'intérieur de petits films lipidiques. On appelle ça des bulles, en gros. Hein. Donc vous avez une bulle avec de l'ADN dedans. Ces premières bulles de vie se sont formées, et dès que ces premières bulles de vie se sont formées, une première bifurcation essentielle est apparue, à mon avis très, très de manière très, très lointaine, c'est un processus très, très archaïque. Les bactéries ont été confrontés à un univers qui était probablement assez impitoyable. Et on peut parfaitement admettre que c'est l'une des explications qui fait que les bactéries ont travaillé à développer une paroi cellulaire. Alors, ce n'est pas la bactérie qui a dit « je vais développer une paroi cellulaire », c'est simplement les bulles qui ne se sont pas bien roulées dans la vase, qui ne se sont pas bien protégées de toutes les tensions, de tous les radiations, la chaleur qui pouvait se passer, qui évidemment n'ont pas acquis cette particularité-là. Mais alors, c'est bien beau de dire que les bactéries, elles se seraient roulées dans la vase, elles auraient acquis leur paroi, etc. En plus, à cause de ça, probablement qu'elles ont réduit les capacités d'échanges cellulaires. Mais pourquoi est-ce que chez les bactéries, les échanges cellulaires sont si réduits, alors que chez les eucaryotes, les échanges génétiques, sont si réduits, alors que chez les eucaryotes, les échanges génétiques sont très importants? Eh bien, probablement parce qu'à côté, on a eu autre chose qui s'est passé. Alors, ma théorie, c'est de supposer que ces bulles, toujours ces premières bulles prébiotiques, se seraient assemblées dans des creux, dans des endroits où elles étaient probablement moins soumises à des radiations ou à des gros problèmes, et du coup, elles se sont retrouvées confrontées à un autre problème, celui de la promiscuité. C'est-à-dire que du coup, ces bulles ne se sont pas protégées les unes par rapport aux autres, d'une manière ou d'une autre, et elles se sont trouvées confrontées à se manger les unes les autres. Or, qu'est-ce qu'il y avait de bon à manger dans une bulle? Pas grand-chose à part son ADN. Donc, on mangeait de l'ADN, on s'est retrouvé avec des bulles qui contenaient plein d'ADN, qui ont peut-être éclaté à cause de ça. D'autres bulles qui, au contraire, n'en avaient plus, puisque celles-là, elles ont disparu. Et puis, il y a des bulles qui ont commencé à accepter des échanges, parce qu'en modifiant l'ADN, on modifie le métabolisme des animaux. L'ADN, c'est producteur de protéines, producteur d'enzymes. Tout ça, ça va jouer sur la vie, les capacités. Or, ce renouvellement du métabolisme, à une époque où la nourriture est pas simple, où on est en train de mettre en place toutes les protéines de la sensibilité cellulaire qui vont permettre de savoir ce qu'est notre environnement, c'est évidemment un moment essentiel. Alors, à partir de là, j'ai appelé ça bulle libertine. Pourquoi ? Bon, ce n'est pas tout à fait des bulles, ce n'est pas très grave. Parce que ce sont les bulles qui ont accepté un échange équilibré. On oublie, je fais de l'écologie évolutive, parce que ce qui compte en écologie, c'est la structuration qui équilibre. En gros, plus vous avez des interactions, plus vous avez une espèce d'équilibre qui se maintient. Alors, on oublie la force structurante des interactions. Or là, si on s'aperçoit que nos bulles vont accepter l'échange, alors celles qui acceptent pas, c'est fichu, celles qui mangent trop, c'est pareil, elles vont gonfler, peut-être exploser, mais celles qui finalement réussissent à s'équilibrer, eh bien, cette interaction équilibrée, la plus libertine, celle où on va s'échanger des gènes, eh bien, ça va vite devenir, évidemment, un échange qui va durer. Et donc, voilà pourquoi ça s'appelle des bulles libertines. Ce sont les bulles qui ont pratiqué le plus souvent l'échange, qui ont renouvelé le plus souvent leur métabolisme et qui ont fonctionné. Alors, le plus souvent, c'est à l'échelle de quelques millions d'années, tout ça. Mais en tout cas, on a donc un mécanisme aveugle d'emballement. Alors, grosso modo, on passe d'un chromosome, j'ai simplifié ici, à deux chromosomes à cause de ce système. Évidemment, va intervenir petit à petit le noyau qui donne cette impression de, en fait, avec, non pas, donne l'impression de protéger l'ADN, mais on peut parfaitement supposer qu'au lieu de le protéger, au contraire, il neutralise cette énorme quantité d'ADN qu'on va retrouver chez les eucaryotes. Les bactéries n'ont qu'un seul chromosome, hein, en circulaire en général, il y a des exceptions qui sont intéressantes d'ailleurs, et les eucaryotes sont en général diploïdes, là aussi il y a beaucoup d'exceptions. En tout cas, on voit que si on pose le sexe comme un échange archaïque, non pas vertical, avec des descendants, mais un échange archaïque horizontal de gènes, on commence à comprendre pourquoi il est là. Et en même temps, on s'aperçoit qu'il n'y a pas besoin de chercher un avantage sexuel dans la reproduction. Il suffit simplement de supposer que cette modification va suffire à modifier le métabolisme de nos bulles pour que déjà, elles retrouvent un tout petit avantage. Et ce micro-avantage peut être suffisant à terme pour justement se développer. Alors le sexe, ce n'est quand même pas simplement de l'échange génétique. Beaucoup de scientifiques pensent que une fois qu'il y a méiose établie, alors, la méiose n'existe que chez les eucaryotes, mais une fois que la méiose est établie, on pense que le sexe, il est effectivement complètement établi. Or en fait, le sexe est aussi la syngamie, c'est-à-dire la rencontre de deux gamètes. C'est aussi les mécanismes de la gamétogénèse, la fabrication de ces gamètes. Alors il faut comprendre que, bien sûr, plus cet échange s'est avéré efficace, en fait, en gros, plus il a duré, évidemment, plus ça le rendait possible de durer. Pourtant, le cœur des agrions là, est un petit peu malhabile, puisque dans la réalité, on va s'apercevoir que tout ça, ça va se compliquer très vite. D'abord, parce que l'anisogamie va se mettre en place, c'est-à-dire que petit à petit, un mécanisme sélectif va entraîner certaines cellules à nager, donc aller à la rencontre d'une cellule qui, elle, va pouvoir se gonfler de tous les attributs nécessaires. Et puis, on va voir apparaître un autre élément qui va aussi complètement modifier l'évolution des choses, surtout chez les animaux, puisque là, on a affaire à des animaux mobiles. Hein, ils ont besoin de cette mobilité. C'est le problème de l'investissement parental. L'investissement parental, ça va conduire petit à petit dans l'évolution. Alors, si on reprend la chaîne linéaire depuis la paramécie jusqu'à l'humain, ça conduit à la viviparité, par exemple, chez les mammifères, qui est un investissement considérable. La femelle se retrouve confrontée à quasiment tout faire. Or, on s'aperçoit bien que dans le sexe, il y a malgré tout la présence des mâles qui s'avèrent relativement vindicatifs et tyranniques. Lorsqu'on est arrivé à ce stade particulier de la production du sexe, on s'aperçoit que le comportement sexuel est ici devenu très très important. Si les mâles sont vindicatifs et théoriques, alors bon, la photo très célèbre de la taille par exemple du pénis chez les rhismatures ornées, une publication tout à fait intéressante, qui nous montre en fait que les organes d'intromission par exemple sont tout à fait corrélés au degré de conflit sexuel tel que Rice avait pu le définir dans les années 2000. Alors le conflit sexuel c'est quoi ? Tout le monde a entendu parler de la menthe religieuse et de la manière dont finit le rapport amoureux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les deux sexes n'ont pas le même intérêt à se reproduire. L'un a comme intérêt je vais très vite jusqu'à ma conclusion, on a presque fini. L'un a intérêt, en fait, en quelque sorte, à multiplier les rapports sexuels, le mâle. Il a intérêt à multiplier les partenaires parce qu'il multiplie sa reproduction. La femelle, au contraire, n'a aucun avantage à multiplier les partenaires parce qu'elle ne multiplie pas la sélection. D'où le fait qu'on va retrouver, bon, je passe vite sur ça, qu'on va retrouver dans le conflit des éléments extraordinairement particuliers qui vont entraîner une modification du corps des mâles et des femelles. Bon, par exemple, l'invention d'un sperme toxique chez les mâles qui peut aller presque jusqu'à tuer la femelle si elle se réaccouple, ou qui du moins l'affaiblit. On va retrouver tout un ensemble de processus de ce conflit sexuel. Par exemple, la présence de ceintures de chasteté imposées par les écureuils, c'est la glande accessoires, les glandes accessoires qui vont provoquer un mucus qui va coaguler, qui va empêcher les femelles de se reproduire ailleurs. Et puis un des exemples probablement les plus connus, c'est évidemment l'infanticide chez les lions, où on voit très bien que le lion mâle peut réduire la reproduction des femelles simplement parce que lui veut se reproduire. Le conflit sexuel, c'est ça. L'un des deux sexes peut modifier la reproduction de l'autre sexe. Donc, évidemment, les femelles peuvent aussi prendre leur revanche. C'est le cas, par exemple, chez les Cnemenophorus, où ce qui est remarquable, c'est que voilà des femelles qui vont avoir un comportement très proche du comportement mâle. Un peu comme si les comportements sexuels, ça va intéresser ceux qui s'intéressent aux problèmes du genre, un peu comme si les comportements sexuels n'étaient pas figés par les chromosomes et par les gènes, mais qu'au contraire, des animaux pouvaient parfaitement retrouver des comportements mâles tout en étant des femelles. Toutes ces espèces sont souvent issues, bon, vous l'avez dit amplement, toutes ces espèces sont souvent issues d'une problématique simple qui est celle de l'hybridation. La plupart de ces espèces asexuelles ont perdu en quelque sorte le sexe suite à des conflits particuliers qui sont des conflits de génome. Et puis donc on en arrive évidemment à quelque chose qui est évidemment plus complexe, c'est d'où sort le comportement. Alors David Crewe, celui qui a travaillé sur les lézards, vient d'inventer une phrase intéressante. Il nous dit que le comportement précède le sexe, le comportement sexuel précède le sexe, puisqu'il a fallu que les cellules aient d'abord de la sensibilité pour se rencontrer avant que les échanges puissent se faire. Alors c'est pas tout à fait faux, donc je pourrais revenir sur quelques éléments là-dessus par la suite. Et donc, pour conclure, on s'aperçoit que cette sensibilité qu'on peut aussi appeler de l'émotion, qui va petit à petit se construire dans un sentiment, eh bien, c'est la réconciliation qui va en fait fabriquer toutes ces problématiques et arriver probablement à la différence. Voilà, j'ai essayé d'aller assez vite. Donc, en évitant, bien entendu, des énoncés trop normatifs à partir de la biologie, on voit qu'actuellement, il y en a un paquet qui sortent dans la rue de ces énoncés normatifs où la biologie devrait servir à ça. Alors que la seule norme, évidemment, d'évolution, c'est la variété des conduites sexuelles. Merci de votre attention.
Oui, on met en aussi.
D'accord. Je peux prendre le verre d'eau, excusez-moi.
Bien. Bon, je vous parlais un peu de plantes. Alors, chez les plantes, donc, l'étude de la sexualité des plantes a été... ça a commencé dès le début, mais il y a eu quelques grands moments. Hein. Je voudrais vous dire d'abord que l'un des plus grands spécialistes de la sexualité des plantes, encore une fois, ça a été Darwin, hein, qui a été élu à l'Académie des sciences à Paris pour ses travaux de botanique. L'Académie des sciences de Paris ne voulait pas entendre parler de ses travaux d'évolutionniste, puisqu'on avait déjà la marque. Darwin, ça ne comptait pas. Mais le sexe chez les plantes a été célèbre chez les naturalistes bien avant, bien sûr, et en particulier avec Linné, donc le grand naturaliste du XVIIe siècle, qui a proposé donc un système de classification des plantes fondé sur le sexe, le système sexuel de Linné. Comme ça me permet de montrer de belles images, je vais vous montrer un peu ça. Donc, système sexuel de Linné, l'idée c'était que la fleur était un lit nuptial, une chambre nuptiale, richement parée, dans laquelle se produisait l'accouplement. Mais le truc qui a choqué dès le départ, c'est que Linné a classé les plantes en fonction du nombre de mâles qui fécondaient la femelle en même temps, dans la chambre. Ce qui a fait qu'on a pu dire que la botanique ne pouvait plus être enseignée aux jeunes filles. Alors, il y avait bien sûr, donc il classait les différentes formes, où il y a un mâle, deux mâles, trois mâles, etc. 12 mâles, beaucoup de mâles, et puis après des mâles grands et des mâles petits. Et puis, à la fin, il a fabriqué une catégorie fourre-tout, celle où on ne voit pas, les noces. On ne sait pas ce qui se passe, il appelait les cryptogames. Donc voilà, vous voyez, ça c'est les monandrias, donc où il n'y a qu'un mâle, deux mâles, trois mâles, quatre mâles, cinq mâles, six mâles, sept, vous voyez, toutes les catégories. Alors il y a une photographe qui a récemment donc fait des photos illustrant ces différentes caractéristiques qui sont là. Là on en arrive à 10, 12, beaucoup, hein. Voilà, et puis après, alors des grands et des petits, bon, je vous passe les détails. Hein. Et puis enfin, la situation dans laquelle les mâles et les femelles ne sont pas dans la même pièce, ils font chambre à part, qui correspond à la monésie, c'est-à-dire dans la même maison, vous avez des fleurs mâles et des fleurs femelles, mais vous avez, mais elles sont pas, c'est pas la même fleur. Hein. Et puis après, vous avez carrément, ils habitent pas dans les mêmes appartements. Et là, donc, c'est la DSI. Il y a des plantes mâles et des plantes femelles. Donc cette cette classification, il l'a terminée par les cryptogamies. La chose remarquable, c'est que le dernier petit dessin de son schéma, eh bien, c'est une figue. Considéré comme une cryptogame puisqu'on ne voit pas le sexe. Alors, il a eu l'idée d'ouvrir la figue après et il s'est rendu compte que les fleurs étaient dedans, donc il l'a enlevée. Hein, et donc, les figuiers ne sont plus dans les cryptogames. Les cryptogames, évidemment, c'est une catégorie qui existe encore historiquement, bien qu'elle n'ait plus aucun sens systématique puisqu'elle regroupe des choses extrêmement différentes comme les champignons, les algues, les fougères et les mousses. Hein. Voilà, je passe. L'inné, par ailleurs, son système sexuel lui a posé des problèmes parce qu'il connaissait très bien une plante qui s'appelle la linaire. Alors la linaire a sa une forme comme ça, vous voyez, avec un éperon, un nectarifère et puis une corolle tout à fait reconnaissable. Et un beau jour, il a découvert qu'il y avait des plantes comme ça. Et je voulais vous en parler parce que, par ailleurs, tout le reste de la plante, c'est exactement pareil que la linaire. Il y avait toujours les éperons nectarifères, mais cette fois-ci, il y en avait, vous voyez, 5 au lieu de 1. Et puis, le haut de la fleur était très transformé. Alors, c'est une mutation de développement. En fait, c'est une mutation épigénétique, hein, de développement. Hein. Au lieu d'avoir une fleur comme ça, vous en avez 5 qui se collent et qui se produisent ensemble. Il a trouvé ça tellement extraordinaire qu'il a appelé ça Peloria, ce qui veut dire merveilleux, hein, merveille. Et évidemment, ça foutait en l'air tout son système sexuel, puisqu'il voyait bien que c'était très très proche, mais qu'en comptant le nombre de mâles avec les femelles, là, il ne trouvait plus du tout la même chose. Donc le système sexuel de Linné a servi de base à la fabrication de la classification des plantes, mais maintenant il est totalement dépassé. Donc voilà, ça c'est différentes sortes de Peloria, tiens, voilà une autre. À partir d'une clochette comme ça, vous pouvez faire des trucs comme ça, toujours des mutations épigénétiques. Donc alors le sexe des plantes. Maintenant, on commence à connaître un petit peu son développement. On sait qu'il y a, bon, je passe là-dessus, mais qu'on sait qu'il y a 3 gènes majeurs qui jouent sur la production de la fleur. Un gène A, un gène B, un gène C. Donc, quand le gène C est exprimé au milieu du méristème, le gène B en anneau autour et le gène A dans un anneau encore plus grand. Quand on reçoit que le gène A, ça fabrique des sépales. Les cellules qui sont influencées à la fois par le gène A et le gène B fabriquent des pétales. Celles qui sont influencées à la fois par le gène B et par le gène C fabriquent des étamines. Et quand il n'y a que le gène C, ça fabrique le côté femelle de la fleur. Donc ces 3 gènes vont permettre de faire à la fois la fleur et les organes sexuels mâles et femelles rangés en cercle dans la fleur. Je passe là-dessus. On a trouvé donc des mutations, on sait faire des mutations maintenant de ces gènes qui vont permettre, en perdant un des gènes, de trouver des plantes qui n'ont pas de pétales ou pas d'étamines, etc. Mais le sexe des plantes, donc comme je vous le disais, c'est Darwin qui va en apporter des descriptions tout à fait remarquables. Alors il était bien placé parce qu'il avait son grand-père qui faisait des poèmes à partir de ce qu'avait dit Linné, hein, son grand-père Erasmus Darwin. J'ai pas le temps de vous lire ça, mais vous voyez... Swedish Sage, ça c'est bien sûr Linné qui était suédois et donc il explique tout le système sexuel en vers, hein, et il va aussi proposer des visions évolutives, enfin dans lamarckienne, de la transformation des formes vivantes. Charles Darwin lui va publier 2 livres majeurs, hein, les différentes formes de fleurs sur les plantes de la même espèce, qui reste une référence dans le domaine des systèmes sexuels des plantes, et puis les effets de l'autofécondation et de la allofécondation dans le règne végétal, et puis aussi des études tout à fait remarquables sur les orchidées et sur la coévolution entre les orchidées et les abeilles. Alors, qu'est-ce qu'il va trouver, Darwin ? D'abord, il va trouver qu'il existe chez certaines plantes des systèmes dans lesquels tout le monde est hermaphrodite. Par exemple, dans ce cas-là, vous avez tout le monde est hermaphrodite, mais il y a des fleurs qui ont des styles longs et des étamines courtes, et d'autres qui ont des styles courts et des étamines longues. Alors c'est pratique parce que quand l'abeille rentre, elle se met du pollen sur la tête ici et elle le déposera sur le stigmate ici. Et là, elle va se charger de pollen sur l'abdomen qu'elle déposera sur celle-là. Ces deux types de plantes sont faites pour être croisées entre elles et ne peuvent pas se croiser à l'intérieur d'un groupe. C'est-à-dire que celle à style court, si je prends du pollen d'une plante à style court et que je le mets sur une autre plante à style court, et ben ça ne marchera pas. Alors Darwin fait des mesures de ça. Hein, et il trouve qu'aucune de ces deux groupes ne peuvent se féconder en intra, mais doivent se féconder en inter. Ce qui fait que au fond, on peut appeler ça deux sexes. Si j'appelle sexe un ensemble d'individus qui ne peuvent pas se reproduire entre eux, mais qui doivent aller chercher dans le groupe d'à côté pour se reproduire, ben vous avez là deux sexes, mais tous les deux sont hermaphrodites. D'accord ? Donc, vous voyez, quand on commence à réfléchir aux plantes, on est obligé d'oublier nos habitudes d'humains sur ces questions-là. D'autant que, évidemment, une fois qu'on fait, donc voilà, ça c'est les photos, hein, étamine court style long, étamine long style court. Hein. Darwin, ça c'est des dessins de Darwin hein, qui montrent comment ça marche, la fécondation, qui fait des mesures, des tas de manips très modernes hein, pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, je passe. Et puis alors chez Oxalis par exemple, vous avez la même chose, des stylons, des étamines courtes et réciproquement, mais là vous pouvez avoir chez certaines espèces trois formes. Des étamines longues, des étamines courtes ou des étamines intermédiaires. Enfin, oui, style court, style moyen, style long. Hein. Et donc, dans cette espèce-là, il y a trois sexes, selon la définition que j'ai donnée tout à l'heure. Donc, si on vous demande pourquoi il y a toujours deux sexes, ben non, il n'y a pas toujours deux sexes. Hein. Chez les oxalis, il y en a trois. Et chez le trèfle, alors bon, ça c'est, chez le trèfle, alors c'est encore pire. Il y a un système qui s'appelle auto-incompatibilité, donc qui fait que un pollen d'une fleur de trèfle, ben il va pouvoir germer sur le style que si jamais le gène qu'il possède n'est pas possédé par la femelle. Les allèles qu'il possède à un certain gène ne sont pas possédés par la femelle. Et le résultat, c'est que des sexes, ben il y en a des centaines chez le trèfle, parce qu'il y a beaucoup de formes génétiques différentes de ce gène. Donc en fait, l'auto-incompatibilité du trèfle fait que chez le trèfle, il y a des centaines de sexes. Voilà, donc il n'y a pas du tout nécessité qu'il y ait deux sexes. Simplement, évidemment, si jamais il y a des gros gamètes et des petits gamètes, on n'a jamais trouvé de cas où il y a en même temps des formes intermédiaires. Bien, donc chez les plantes, eh bien, il y a des gamètes mâles, enfin, il y a des gamètes, il y a des pollens qui correspondent à la fonction mâle, un système qui correspond à la fonction femelle, et puis il y a des sexes qui n'ont pas grand-chose à voir avec ça. Moi, j'ai étudié pas mal la sexualité du frêne, est tout à fait étonnant. Alors ça, c'est comment on cueille des fleurs de frêne, hein, sans trop se fatiguer. Une fois qu'on vise un petit rameau, on le ramasse par terre, vous voyez, ça, c'est des fleurs de frêne. C'est pas très joli. Hein. Voilà, donc des fleurs femelles, des fleurs hermaphrodites, des fleurs mâles. Alors, voilà, ça, c'est une inflorescence femelle, ça, c'est une inflorescence mâle. Et chez les frênes, eh bien, il y a à la fois des fleurs femelles, des fleurs hermaphrodites et des fleurs mâles. Donc il y a les trois systèmes, et selon comment elles se répartissent sur les individus, vous allez pouvoir avoir des individus qui ont les trois sexes à la fois. Enfin, je ne sais pas comment il faut dire, les trois genres non plus. Je sais pas, enfin, bref, les trois types de fleurs. Il y a des individus qui en ont deux, des individus qui en ont qu'un. Hein. Et du coup, il y a plein de sortes d'individus avec des statuts sexuels différents. Il y a un vocabulaire désastreux qui a été fabriqué pour décrire tous les systèmes sexuels chez les plantes, donc on appelle hermaphrodite une plante dont toutes les fleurs sont hermaphrodites, mais on parle de fleurs femelles et de fleurs mâles, alors du coup un individu qui a que des fleurs femelles, on l'appelle femelle, un individu qui a que des fleurs mâles, on l'appelle mâle, mais un individu, quand il y a des individus femelles et des individus mâles, on dit que l'espèce est dioïque, mais quand les individus possèdent à la fois des fleurs femelles et des fleurs mâles, on dit que l'espèce est monoïque, alors que les individus, en fait, ils sont hermaphrodites, hein, c'est... Enfin bref, et après vous avez tout un bazar avec ceux qui ont des individus femelles et des individus hermaphrodites, ça s'appelle gynodioïque, des individus mâles et des individus hermaphrodites, ça s'appelle androdioïque. Puis après vous avez trioïque avec quand il y a les trois sexes, et puis alors trimonoïque, c'est le pire hein, quand même, c'est quand vous avez un individu avec les trois sortes de avec les trois formes en même temps. Voilà. Je voulais vous dire que chez les plantes, il y a toute cette diversité de détermination sexuelle. Moi, j'ai étudié deux espèces un peu en détail sur ce plan-là. Le thym, alors je n'aurai pas le temps de vous raconter l'histoire du thym en détail, mais sachez que chez le thym, si on veut comprendre vraiment, il faut d'abord s'extraire de notre vision anthropocentrée du sexe. Il n'y a pas des mâles d'un côté, des femelles de l'autre. et puis ils font ce qu'ils ont à faire. Je la remonte, celle-là. J'aimais bien, pour expliquer ça, prendre cette photo qui se trouve au Louvre, hein, et la montrer, parce que, vous voyez, cette personne très, très sympathique, quand on en fait le tour, on a une surprise, ça se voit mieux là, c'est l'hermaphrodite du Louvre, hein, et les gens, quand ils faisaient le tour, parce qu'avant, elle était contre un mur, ils étaient surpris, vous voyez, ils restaient un peu rêveurs devant. Et c'est parce que c'est pas des botanistes, parce que pour un botaniste, je passe là-dessus, l'hermaphrodisme, c'est la norme, hein, comprenez bien ça, hein, et le fait d'être une femelle, pour un botaniste, bah, c'est une femelle, c'est un hermaphrodite qui a perdu sa fonction mâle. Et un mâle, c'est un individu qui a perdu sa fonction femelle. Alors, des mâles, il n'y en a pas beaucoup chez les plantes, mais des femelles, il y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a des plantes hermaphrodites, chez le thym, par exemple, vous avez des fleurs hermaphrodites, et puis vous avez des individus qui ont des fleurs femelles. Ce n'est pas les mêmes individus. Et la proportion d'hermaphrodites et de femelles est incroyablement variable d'une population à l'autre. Ça varie de 0 à 100%. Ça, je vais aller vite, mais je voulais vous montrer cette photo des années 70, comme vous pouvez le voir en regardant la tête des scientifiques qui sont là. Vous avez un Anglais, un Américain, deux Hollandais, une Japonaise, un autre Américain. Tous admirent une population de thym. Et cette population contient 100% de femelles. Elles font pas de descendants, parce qu'il n'y a plus personne pour les féconder, c'est les hermaphrodites qui fécondent les femelles. Voilà, alors l'histoire du sexe, je n'ai pas le temps de vous la raconter, mais c'est une histoire de bagarre entre des gènes mitochondriaux et des gènes nucléaires qui décident de ce résultat, et vous voyez que donc on a un système sexuel incroyablement fluctuant, hein, avec des femelles et des hermaphrodites en proportion très variable. Et donc quelque chose de beaucoup plus spécial, si vous voulez, que ce qu'on trouve chez les animaux. Et pour finir, je voudrais présenter le système sexuel du figuier. Alors, vous le faire ça en 4 minutes, c'est une gageure. Je ne vais pas pouvoir le faire. Bon, les figuiers, vous le savez, vous en connaissez plein. Ficus, le genre ficus, ça veut dire figuier, ficus. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, parce que tout le monde a un ficus chez soi. Et c'est pas que c'est un figuier. Donc, le genre ficus contient en gros 800 espèces décrites pour le moment. Hein. Alors, il y a le caoutchouc, le ficus benjamina, bien sûr, mais aussi les banyans, etc., etc. C'est des arbres tropicaux qui, en général, germe sur un autre arbre et le parasite progressivement et finissent par l'étouffer. Voilà, puis après, l'arbre de départ disparaît et le ficus prend sa place. Hein. Et c'est pour ça que c'est des arbres qui sont capables de pousser à n'importe où d'exploser les bâtiments sur lesquels ils sont. Et la spécialité des ficus, c'est la figue. Et la figue, c'est quoi? C'est une inflorescence refermée sur elle-même. Hein. C'est la famille des Moracées. La famille des Moracées, vous voyez, la fleur de base, c'est ça. L'inflorescence de base, vous voyez, ça, c'est une fleur femelle. C'est tout bête, les fleurs femelles. Il y a un ovule, un style, un stigmate, c'est tout. Et les fleurs mâles, c'est tout bête, c'est une étamine. Dans cette espèce-là, ces fleurs sont posées sur un plateau, comme une marguerite, si vous voulez. Mais ce plateau, il est évolutivement très plastique. Et il peut soit s'invaginer comme ça, et à ce moment-là, ça fera une mûre, la mûre du mûrier, hein, soit s'invaginer dans l'autre sens, et ça fera une figue. Donc une figue, c'est une inflorescence refermée sur elle-même. Le problème, c'est que du coup, cette inflorescence, elle contient des fleurs mâles et des fleurs femelles. Ah oui, là, c'est une figue très très simple, avec quelques fleurs femelles et très peu de fleurs mâles. Le problème, c'est qu'il n'y a plus aucun moyen que le pollen puisse être transporté d'une figue à l'autre, sans qu'il y ait un insecte particulier qui vienne faire le travail. Et cet insecte, eh bien, il ne peut vivre que dans les figues. Et donc le résultat, alors voilà, c'est la diversité des figues, j'ai pas le temps de vous montrer ça trop en détail. Cet insecte, il est tout à fait incroyable. Il est spécialisé dans le fait d'entrer dans les figues. Les femelles ont des mandibules qui leur permettent de se tirer. Il y a un film incroyable que vous pouvez louer au CRDP, qui s'appelle Ficus tropico et pollinisateur. Je vous garantis l'effet. Et donc, les femelles ont des mandibules qui ne leur servent que se tirer. D'ailleurs, du coup, elles ne peuvent rien manger. Elles grossissent comme larves dans la figue. Et une fois qu'elles sortent, elles n'ont plus qu'à trouver une autre figue et à les pondre. Et elles ne peuvent plus rien faire d'autre. Leurs ailes sont décrochables pour pouvoir entrer dans la figue facilement. Hein. Donc, je passe sur des caractéristiques anatomiques. Donc, vous voyez, ça, c'est des femelles en train d'entrer dans une figue. Elles laissent les ailes à l'entrée. Hein. Voilà. Une fois qu'elles sont dedans, elles vont pondre leurs œufs dans des fleurs femelles du figuier, qui sont des fleurs femelles dont le style est court, de manière à permettre la ponte. Donc le figuier fait des fleurs femelles qui ne servent qu'à faire des insectes. Et le figuier fait aussi des fleurs mâles dont le style est trop long pour que l'insecte puisse pondre dedans, et ça, ça fera des graines. Donc il y a des fleurs femelles à style court pour faire les insectes, des fleurs femelles à style long pour faire des graines, et des fleurs mâles. L'insecte pond là-dedans. Ensuite, voilà, vous voyez l'insecte en train de pondre. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que l'insecte possède des poches à pollen, et qu'en même temps qu'il pond, il sort le pollen, il pollinise les fleurs. Ça, c'est dans le film. Ah, ça, c'est le vide. Ensuite, une fois que la femelle a fini de pondre, vous voyez qu'elle n'a plus d'ailes, elle a laissé ses antennes dehors et tout ça, hein. Elle meurt tranquillement. Les œufs commencent à se développer. Ça, c'est des fleurs à style long, ça, c'est une fleur à style court, vous voyez, puis ça, c'est une graine. Hein, ça vous donne, vous connaissez tous des graines de figues. Et bien, ensuite, les insectes se débrouillent. Excusez-moi, les parasites. Il va sortir des mâles absolument hideux, qui sont juste un gros pénis avec des mandibules. Puisque les mâles n'ont rien d'autre à faire dans la figue, ils sortent jamais, donc ils sont aveugles, ils sortent pas de la figue. Dans la figue, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher une gale dans laquelle se trouve une femelle, ouvrir un trou grâce à leur mandibule, ce que les femelles ne peuvent pas faire, puisqu'elles ont des mandibules qui servent qu'à rentrer dans la figue. Féconder la femelle in situ. Tout à l'heure, mon voisin disait qu'il y avait toujours une acceptation, un choix. Là, il y a zéro choix. Il ouvre d'abord un petit trou, il féconde la femelle, et après, il agrandit le trou pour qu'elle puisse sortir. Et les femelles, donc, une fois fécondées, vont dans les étamines et récoltent du pollen et les mettent dans leur poche. Vous voyez ce phénomène de coévolution incroyable où les arbres fabriquent des fleurs femelles pour nourrir les insectes et les insectes pollinisent activement l'arbre. Et c'est comme ça que se perpétuent les figuiers d'une génération à l'autre grâce au fait que ces insectes totalement spécialisés ne vivent que pour se reproduire dans les figues et en même temps reproduisent l'arbre. Voilà, je ne veux pas vous en dire plus parce que je ne veux pas dépasser le temps et qu'on a déjà suffisamment de retard. Mais je veux dire que donc, vous voyez que la sexualité chez les plantes, ça prend des formes extrêmement variées. Ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que à qui profite le fait d'avoir des fleurs femelles à style court? Ça profite au fait que ça fait des insectes, et les insectes, ils vont emmener le pollen de la plante ailleurs. Donc en fait, les fleurs femelles à style court du figuier sont attribuées à sa fonction mâle. Hein, puisqu'elles produisent des insectes qui seront les vecteurs de son pollen quand les insectes sortiront. Donc, toute la plasticité des systèmes sexuels chez les plantes permet des variations tout à fait multiples. Et justement, ça permet de regarder les phénomènes sexuels de façon moins anthropocentrique que ce qu'on a tendance à faire quand on regarde ce qui se passe chez nos amis les animaux, parce que là, on ne peut pas s'empêcher de se sentir une certaine empathie avec eux, dont mon voisin a beaucoup profité, hein, je dois dire. Voilà, je vous remercie.
Juste une petite remarque quand même. Effectivement, chez les animaux, il y a aussi des viols ou des violeurs. Ça ne signifie pas que le consentement n'est pas quelque chose qui se construit malgré tout. Et puis, deuxième point sur la question des multiples sexes, on s'aperçoit alors encore qu'il y a une grande confusion dans le mot sexe. La question essentielle, c'est de savoir est-ce qu'il n'y a effectivement pas de la production d'un côté d'un des deux sexes, c'est-à-dire le mâle qui va produire des spermatozoïdes, qu'elles soient des étamines ou du pollen, enfin ce qu'on veut, et puis de l'autre côté, un autre sexe qui est femelle. Après, ça peut s'assembler dans des formes individuelles qui sont beaucoup plus complexes. On connaît ça, évidemment, l'hermaphrodisme. On connaît d'autres cas où les individus peuvent être différents, mais globalement, c'est quand même très, très difficile de nous montrer qu'il y a autre chose que, d'un côté, deux sexes. Alors après, évidemment, ce n'est pas forcément chez les individus, il y a des variations. Là, bon, il y a eu des modèles mathématiques aussi là-dessus. Je ne sais pas comment on se débat. On est un petit peu mis en cause.
Bien. Je vais donc maintenant vous parler du sexe biologique. J'ai cherché à définir le sexe biologique, mais alors j'ai un objectif beaucoup plus modeste, moi, parce que je m'intéresse seulement aux mammifères. Et donc, on ne va pas trouver 36 sexes, on aura deux sexes, un sexe masculin, un sexe féminin. Et on verra que déjà, c'est déjà extraordinairement compliqué, mais ça nous permettra d'avoir quelques bases. Alors, le sexe chez les mammifères se définit en fait à différents niveaux qui correspondent à différentes étapes de la différenciation sexuelle. Le premier sexe qui se met en place, c'est le sexe génétique, c'est-à-dire c'est le fait que les individus sont, ont des chromosomes XX ou des chromosomes XY, qu'on appelle des hétérochromosomes, et qui se mettent en place évidemment à la fécondation entre un ovocyte qui a toujours le chromosome X et un spermatozoïde qui porte soit le X, soit le Y. Donc premier sexe qui se met en place. Le deuxième sexe qui se met en place, c'est le sexe gonadique. Le sexe gonadique, l'embryon, très précocement, différencie soit des testicules, soit des ovaires. Le troisième sexe qui se met en place, c'est le sexe qu'on appelle le sexe phénotypique ou sexe somatique, encore appelé sexe corporel, qui lui correspond à deux éléments. D'une part, les caractères sexuels primaires, qui sont les organes génitaux internes et externes, qu'on appelle primaires parce que ce sont des caractères sexuels qui sont absolument indispensables à la procréation. Ceux-ci se mettent en place pendant la vie fœtale et sont présents donc à la naissance. La deuxième composante du sexe phénotypique, c'est les caractères sexuels secondaires, c'est-à-dire le dimorphisme sexuel, la forme du corps, la pilosité, la calvitie précoce, apanage des hommes, et les glandes mammaires, apanage des femmes. Ces caractères sexuels secondaires se mettent en place à la puberté ou plus tard. Donc on voit déjà que c'est pas rien de faire un sexe. Hein. Ça commence à la fécondation et ça se termine à la puberté. C'est la seule fonction qui met aussi longtemps à se mettre en place. Il y a également une autre partie composante du sexe comme somatique qui est la différenciation sexuelle du système nerveux central et du comportement sexuel qui a des composantes à la fois pendant la vie fœtale et à la puberté. Donc voilà, on a trois sexes, trois niveaux de sexe. Alors, l'idée fondamentale, c'est que c'est le sexe génétique qui impose le sexe gonadique. Et puis ensuite, le sexe gonadique va imposer le sexe phénotypique, et ceci, quel que soit le sexe génétique. Il faut vraiment avoir cette notion d'un sexe à étage, d'une fusée à trois étages. Le sexe génétique impose le sexe gonadique, et ensuite... Le sexe gonadique impose le sexe phénotypique, quel que soit le sexe génétique. Puis il y a d'autres sexes. Alors, il y a le sexe de l'état civil qui lui est fondé exclusivement sur l'observation des organes génitaux externes à la naissance. On voit donc que c'est un tout petit morceau du sexe. Ensuite, il y a d'autres sexes qui sont le sexe psychologique. L'individu s'identifie comme appartenant à un sexe. Et puis... le sexe social, la société envoie une image à un individu comme appartenant à un sexe, ceci étant lié aussi au sexe d'élevage. Les parents n'élèvent pas de la même façon les petits garçons et les petites filles. Alors, moi, je vais rester très biologique en considérant uniquement que les trois premiers niveaux du sexe. En fait, mon exposé est extrêmement simple, facile comme tout. On va se poser la question comment le sexe génétique impose-t-il le sexe gonadique, puis ensuite comment le sexe de deuxième partie, comment le sexe gonadique impose le sexe phénotypique. Première partie. Description extrêmement rapide. Au cours de l'embryogenèse, se mettent en place... est-ce qu'il y a un pointeur ici? Non.
Oui, c'est ici. Au bout.
Là? Ouais, voilà. Le sexe, donc, au cours de l'embryogenèse, ici la représentation d'un embryon, sur la surface d'un rein embryonnaire, qui est une mésonéphrose, se développe une crête génitale qui est rigoureusement identique chez les embryons masculins et les embryons féminins. Et puis ensuite, ces cellules germinales primordiales qui se forment à l'extérieur de l'embryon viennent coloniser l'ébauche gonadique et forment alors les premières cellules germinales qui sont à l'intérieur de la gonade et qu'on appelle les gonocytes. Puis ensuite, ces gonades qui étaient identiques dans le sexe masculin et dans le sexe féminin vont évoluer soit vers un testicule, soit vers un ovaire. Dans l'évolution testiculaire, les cellules se différencient, qui sont les cellules de Sertoli, qui vont englober les gonocytes et qui forment ainsi des cordons séminifères. Première composante d'une gonade mise en place, la composante gamétogénique, Une gonade, c'est compliqué, une gonade, c'est un organe qui est compliqué parce qu'elle fait deux fonctions. D'une part, elle fabrique des cellules de reproductrices et d'autre part, elle fabrique des hormones. Donc ça, c'est la première partie, fabrication des cellules reproductrices. Deuxième partie, ensuite, se mettent en place les cellules de Leydig qui, elles, ont comme fonction de produire des hormones. Et puis ensuite, les cellules pyrotubulaires qui viennent consolider le tout. Dans les ovaires, eh bien, l'évolution se fait différemment puisque les cellules germinales, elles, entrent en méiose et forment des ovocytes. Et puis ensuite, eh bien, ces ovocytes se font entourer par des cellules somatiques qui sont pour former des follicules primordiaux. Et puis, on a des follicules primordiaux chez l'embryon qui commencent à évoluer, d'ailleurs, commencent leur folliculogénèse jusqu'au stade, même des fois jusqu'au stade de follicule à entrome. Et puis, bien sûr, dégénèrent. C'est seulement après la puberté que les follicules iront jusqu'à la maturation et seront capables d'émettre l'ovocyte. Donc voilà, les gonades sont mises en place très rapidement. Le truc important, c'est qu'on a vraiment un dimorphisme important entre les deux sexes, c'est que les cellules de Leydig fœtale produisent de la testostérone, alors que les cellules somatiques, les petits follicules, eux, ne produisent pas d'estrogène. On y reviendra. Quel est le déterminisme? Alors le déterminisme, classiquement, depuis très longtemps, il faut que je fasse ça en 20 minutes, donc je vais vite, on sait que la gonade sexuellement indifférenciée va évoluer vers un testicule lorsqu'il y aura présence de chromosome Y et vers un ovaire lorsqu'il y aura absence du chromosome Y. Donc l'ovaire, c'est un testicule raté. Voilà. On a vécu sur cette notion pendant extrêmement longtemps. C'est intéressant parce que cette notion, on l'a eue depuis le 1950-1940, quand on a vu que des individus X0 mettaient en place des ovaires et que les individus, c'est les syndromes de Turner, et les individus XXY mettaient en place des testicules. Donc, on n'avait pas besoin de 2X pour faire un ovaire, mais on avait besoin d'un Y pour faire un testicule. Et puis après, on a travaillé sur cette notion. Et dans les années 90, on s'est dit, sur le chromosome Y, il existe quelque chose qui est vachement important, qui fait qu'on a un testicule. Et ce petit gène qui fait qu'on a un testicule a été isolé. C'est le chromosome SRY, je pourrais vous raconter comment. C'est un petit gène, un petit chromosome, 669 paires de bases, 223 acides aminés. Petit gène, eh bien, impose une différence testiculaire. Voilà l'idée qu'on a en 1994. Puis ensuite, on se dit, ce gène, quand même, il est tout petit. C'est pas lui qui va faire quelque chose d'aussi compliqué qu'un testicule. Donc, forcément, il va agir sur d'autres gènes qui, eux, vont avoir le rôle de fabrication d'un testicule. Puis on a identifié d'autres gènes, SOX9, FGF9, il y en a d'autres encore. Donc, tout ça, c'est toujours comme ça. Et alors, les individus XX? Les individus XX, c'est simple. Ils n'ont pas de SRY, donc autodifférenciation ovarienne. 1994-1998 à peu près. 2002-2004, il y en a quand même qui se disent quand même un ovaire, il doit bien y avoir des gènes qui font qu'il y a un ovaire. Et on identifie à ce moment-là des gènes. Le premier gène identifié, FOXL2, plus récemment, R-spondine 1. Et bien sûr, c'est des gènes qui permettent une différenciation ovarienne, qui sont dans le sexe XY, réprimé par SRY, mais qui permettent la différenciation ovarienne. Et puis tout récemment, et c'est là que c'est intéressant, eh bien on s'aperçoit que FOXL2 et R-spondine 1 inhibent les gènes de différenciation testiculaire. Alors maintenant, on a une symétrie. On a des gènes ovariens qui entraînent une différenciation ovarienne. Et ces gènes ovariens inhibent la différenciation testiculaire. Et on a des gènes testiculaires qui permettent la différenciation testiculaire, et ces gènes-là inhibent la différenciation, les gènes ovariens. Donc on arrive à un équilibre, on arrive de plus en plus à cette notion maintenant, au point de vue génétique. Il y a une balance, en fait, entre les gènes masculins, les gènes féminins, et que c'est de cette balance-là qu'on va l'évaluer dans un sens ou dans un autre. Cette balance est quand même très, très dominée par SRY. C'est vrai qu'à partir du moment où il y a SRY et qu'il s'exprime, eh bien, on a un développement testiculaire. Donc voilà, pour le déterminisme. On continue. Les anomalies de la différenciation, ben c'est simple, quand ça ne marche pas, on a un hermaphrodisme vrai, c'est-à-dire qu'on peut avoir une partie de la gonade qui est testiculaire, une autre partie de la gonade qui est ovarienne, si on a, c'est ça l'hermaphrodisme vrai.
Vrai, ça ne veut pas dire fertile.
Ah non, ça dépend, si ça peut vouloir dire fertile. Si c'est
de côté.
Ça peut vouloir dire, en général c'est masculin, d'accord. C'est-à-dire que dans un testicule, on trouvera une partie ovarienne qui ne sert à rien, quoi. Mais dans l'autre sens, ça ne marchera pas.
L'hermaphrodisme vrai, ça veut dire qu'on peut faire des descendants à la fois par la voie mâle et par la voie
femelle. Ah non,
d'accord. C'est morphologique, mais pas fonctionnel. Ouais.
D'accord. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est extrêmement rare. Hein. Et en fait, c'est pas des gens qui viennent consulter, de façon générale. C'est-à-dire qu'il y a une dominance d'un des sexes. De façon générale, c'est plutôt quand on fait une biopsie testiculaire qu'on trouve qu'il y a un petit morceau de tissu ovarien dans la biopsie testiculaire. Bon, voilà. Mais c'est extrêmement rare. Voilà. Deuxième étape, comme on va d'une gonade vers le sexe phénotypique, on va d'abord voir les caractères sexuels primaires. Description, c'est tout simple. Au départ, l'embryon met en place les systèmes à la fois masculins et féminins, en mettant en place un canal de Wolf, un canal de Müller et un sinus urogénital. Et puis l'évolution va être différente dans le sexe masculin et dans le sexe féminin. Dans le sexe masculin, eh bien, c'est le canal de Wolf qui se différencie et qui donne naissance à l'épididyme, au canal déférent, aux vésicules séminales. Le sinus urogénital donne naissance à la prostate et aux glandes bulbo-urétrales. Et le canal de Müller, lui, il régresse. Dans l'évolution féminine, eh bien, c'est l'inverse, c'est le canal du Müller qui donne l'essentiel du tractus génital féminin en formant les trompes de Fallope, l'utérus et le tiers supérieur du vagin. Les deux tiers inférieurs du vagin sont mis en place par le sinus, à partir du sinus urogénital, et le canal de Wolf lui régresse. Les organes génitaux externes, c'est identique. On a toujours mis en place une ébauche sexuellement indifférenciée qui se compose à la fois, qui se compose à la fois de des replis urogénitaux qui sont situés de part et d'autre de la fente urogénitale et des épaississements labioscrotaux qui, eux, sont situés plus latéralement. Dans l'évolution... Donc voilà, la position d'un tubercule urogénital non encore différencié. Ici, c'est un fœtus humain de 7 semaines de grossesse. On ne sait pas si c'est un petit garçon ou une petite fille. Et... les épaississements labioscrotaux latéralement, les plis urogénitaux plus près du plan sagittal, et puis la fente urogénitale, et ici le futur gland ou clitoris selon l'évolution. Et dans l'évolution, et bien c'est tout simple. Dans l'évolution féminine, il n'y a pas de modification de la structure de base, c'est-à-dire que les replis urogénitaux donnent naissance aux petites lèvres et les épaississements plus latéraux donnent naissance aux grandes lèvres. Dans l'évolution masculine, il y a une modification de base, c'est-à-dire que les replis urogénitaux se soudent à leur base, et puis se ferment, zip, comme une fermeture éclair, et hop, ça donne un pénis. Les épaississements labioscrotaux, eux, plus latéralement, ils vont souder par-dessous, en position postérieure, ils vont se développer, et comme ça se formera le scrotum. Donc voilà, possibilité d'évoluer dans les deux sens. Alors pourquoi on va dans un sens ou dans un autre ? Eh bien, quel est donc le déterminisme ? Le déterminisme, ici, il y a un vrai déterminisme différent, une vraie différence, et c'est pour ça que les généticiens sont toujours partis avec l'idée que le sexe féminin était un sexe par défaut. Parce que historiquement, dès les années 1950, on s'est aperçu que le testicule sécrétait des hormones et que ces hormones-là permettaient la différenciation testiculaire. Et qu'au contraire, le ver ne sécrète pas d'hormones. On l'a vu tout à l'heure. Et en absence d'hormones, eh bien, l'évolution se fait dans le sens féminin. Plus précisément, le testicule sécrète deux types d'hormones. D'une part, de la testostérone. Cette testostérone est responsable de la masculinisation. Et puis, les cellules Sertoli sécrètent une autre hormone, qui est l'hormone antimullérienne, qui entraîne la régression du canal de Müller et qui permet donc la déféminisation du fœtus. Donc, Mais puisqu'on a parlé tout à l'heure du bisphénol A, nous on voit que le bisphénol A diminue la production de testostérone pendant la vie fœtale, donc diminution de la production de testostérone pendant la vie fœtale pourra entraîner des défauts de masculinisation, des défauts de masculinisation à la naissance, tels que l'hypospadias ou le cryptorchidisme. Et dans le fœtus féminin, absence de production hormonale, d'où évolution de base, non contrecarrée par les hormones, vers le sens féminin. Déterministe des caractères sexuels secondaires, ici il y a une symétrie entre les deux sexes, complètement. C'est-à-dire, oui, j'arrête, c'est fini, c'est bien. Ici, il y a une symétrie, c'est-à-dire qu'à la puberté, en gros, le système hypothalamo-hypophysaire se différencie et est capable alors de sécréter, pour les spécialistes, de la GnRH, une hormone spécifique, qui est sécrétée de façon pulsatile seulement à partir de la puberté. Et c'est seulement cette sécrétion pulsatile qui est capable de permettre l'activation de l'activité endocrine de la gonade. Et donc, alors, cette maturation du système hypothalamo-hypophysaire du cerveau entraîne une mise en route de l'activité endocrine des gonades dans le sexe féminin, qui n'a encore pas produit d'hormones jusqu'à présent, et une mise en route également de la production d'hormones dans le sexe masculin. Dans le sexe masculin, les cellules germinales, les cellules de Leydig qui avaient permis la masculinisation pendant la vie fœtale ont régressé pendant l'enfance, et c'est une nouvelle population de cellules de Leydig qui se différencie à la puberté. Donc, présence de testostérone, on va dans le sens mâle, présence d'estrogène, on va dans le sens femelle. S'il n'y a pas de stéroïdes, il n'y a pas de puberté. L'individu conserve son aspect infantile. Les anomalies de la différenciation, je vais aller très vite là-dessus. Donc j'ai pris un seul exemple, qui est le défaut de réceptivité des androgènes. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'insensibilité aux androgènes. Donc je ne prends que cet exemple, il y en a bien d'autres. Je prends le cas du déficit total, c'est quand même assez fréquent, un cas sur 20 000 naissances. Ce sont des fœtus qui sont des fœtus XY. Et qui différencient des testicules normaux pendant leur vie fœtale. Ces testicules sécrètent de l'hormone antimullérienne, entraînent donc la régression des canaux de Müller, donc pas d'organes génitaux internes de type féminin. Et puis la testostérone, et comme il n'y a pas de récepteur de réceptivité aux androgènes, cette testostérone produite est sans effet. Donc à la naissance, ce sont les petites filles, sans ambiguïté, qui sont élevées comme des petites filles, tout va bien. Et puis, à la puberté, eh bien, ces testicules continuent de sécréter de la testostérone. Et cette testostérone, elle est transformée partiellement, parfois chez tout le monde, chez les hommes, la testostérone est toujours transformée en estradiol. Mais ici, cet estradiol n'est pas contrecarré par la testostérone, par l'effet de la testostérone, puisqu'il y a une insensibilité à la testostérone. Et il n'y a pas une insensibilité aux estrogènes, bien sûr. Donc, ces petites filles développent une puberté féminine, quasiment normal, excepté l'absence de développement de puberté pubienne. Néanmoins, elles sont diagnostiquées parce qu'elles n'ont pas de menstruation, puisqu'elles n'ont pas d'utérus, puisque le canal de Müller a régressé pendant la vie fœtale. Et c'est à ce moment-là seulement qu'elles vont consulter et qu'on leur dit, madame, vous avez des testicules intra-abdominaux. Donc, c'est un syndrome qui est assez facile à vivre parce que de façon générale, ce sont des très belles filles puisqu'elles n'ont pas d'action des androgènes. Donc, ce n'est pas contrecarré par les androgènes. Et on enlève les testicules parce que les testicules intra-abdominaux risquent de devenir cancéreux et on met des patchs de traitements substitutifs hormonaux comme les traitements post-ménopause. Donc, voilà, c'est un cas de déficit d'inversion du sexe. Le travail psychologique avec ces femmes, c'est bien sûr de leur faire accepter le deuil de la maternité, mais elles auront une féminité normale. Bien, donc conclusion, la différenciation sexuelle est un processus en cascade qui met en jeu différents systèmes de contrôle. J'ai parlé des contrôles génétiques, j'ai parlé des contrôles endocriniens, j'ai pas eu le temps de parler des contrôles paracrines. Avec des possibilités d'erreur à chaque étape, et j'en ai donné un dernier exemple. Je vous remercie.
Merci, bravo, on a tenu exactement les 20 minutes à chaque fois. Donc, on garde simplement notre retard de départ. Hein. Et on a le temps donc pour un quart d'heure de discussion. Hein. Enfin, une demi-heure de discussion prévue, on va peut-être écourter.
Oui, on va écourter. 10 minutes si on peut, ça va dépendre des questions en fait.
Oui, c'est des questions que vous ne pouvez pas poser maintenant, on se les posera devant le café tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas.
Mais quand même, ça ne vous incite pas à ne pas poser de questions.
En fait, ils ont envie de café, je crois. Je crois que tu les as traumatisés là. Tout le monde se demande est-ce que j'ai un machin pas normal là-dedans.
Ah, si.
Moi, je voudrais souligner certaines. Enfin, le poids des représentations culturelles sur ces théories biologiques. Monsieur Laudet a commencé en indiquant qu'il y avait souvent dans la biologie de l'évolution des a priori eugénistes. Il n'a pas insisté là-dessus, mais après, il a beaucoup insisté sur la théorie biologique actuelle qui est formée sur le combat, la lutte, l'égoïsme, etc. Donc, est-ce que ça aussi, ce n'est pas une théorie biologique qui passera ? Enfin, dans 50 ans, on reviendra là-dessus. Dans la dernière présentation, il y a eu aussi des... On a bien vu comment le développement de l'embryon, il avait été... influencé par un préjugé masculin, on peut dire. On ne regardait pas ce que faisaient les ovaires ou comment on devenait une femelle, c'était par défaut. Voilà, donc toutes ces représentations-là. Pierre-Henri parle souvent de partous, de la sexualité débridée des botaniques, des plantes, pas des botanistes. voilà, enfin, ça, peut-être qu'on confond les deux. Voilà, je voulais insister là-dessus, c'est tout. Avoir votre réaction.
Alors, je vais te répondre tout de suite. On a avec Marc-André Sellos fait un petit article d'ailleurs sur ce sujet dans Pour la Science il y a un an ou deux, je ne sais plus. Effectivement, les scientifiques ont le choix entre fabriquer des mots ésotériques correspondent systématiquement à des situations de manière à ce qu'il n'y ait pas la moindre confusion avec ce qui se passe chez les humains ou au contraire reprendre des mots de la vie courante. Recité partout, mais enfin, gène égoïste, etc. Altruisme. Et il y a deux aspects. Premièrement, je pense qu'on a le choix qu'entre deux erreurs. Hein. L'erreur de l'anthropocentrisme et l'erreur de l'anthropomorphisme. Parce que les gens qui disent l'altruisme chez les humains, ça n'a rien à voir avec l'altruisme chez les fourmis. Moi, j'appelle ça de l'anthropocentrisme. C'est-à-dire qu'ils considèrent a priori que quelle que soit la similitude de comportement entre un humain et une fourmi, ça n'a rien à voir parce que c'est des humains et qu'on a sacralisé l'humain dans une posture qui permet de dire que quoi que ce soit qui arrive chez les humains, ça ne sera pas pareil que chez les autres animaux. Et ça va d'ailleurs avec le fait que... Justement, je prends la précaution, toujours maintenant j'arrive à faire attention à dire chez les humains ou chez les autres animaux, mais la plupart des gens ils disent pas ça, ils disent chez les humains d'un côté, chez les animaux de l'autre, comme si les humains n'en étaient pas. Donc voilà, ça c'est la... Soit on fait cette erreur-là, soit on applique le mot altruisme aux fourmis comme on l'applique aux humains, et à ce moment-là on se retrouve avec ce problème d'anthropomorphisme effectivement que tu signales, où du coup... on va avoir tendance un peu trop rapidement à penser qu'il n'y a pas de différence du tout entre l'altruisme chez les humains et chez les fourmis. Donc, je ne crois pas qu'on puisse échapper à ce problème. On le dose où on veut. Une chose est sûre, c'est que si la science emploie des termes totalement ésotériques, elle devient totalement hermétique aux non-scientifiques. Et je trouve que ça, c'est peut-être un peu ce qui peut lui arriver de pire. Donc, je préfère des erreurs qu'on puisse corriger après. À une exactitude absolue dans le langage qui rendrait la communication impossible à l'extérieur du cercle des scientifiques. Mais bon, je te réponds, mais ça ne veut pas dire que j'ai raison, je veux dire que ça peut se débattre. Hein. Je ne sais pas si mes collègues veulent répondre aussi ça. Là-dessus.
Oui, je crois qu'on a aussi toujours ce problème de la communication avec les médias. Bon, par exemple, tout à l'heure, j'ai utilisé le terme hypospadias, cryptorchidisme. Bon, je me suis bien rendu compte que je l'avais pas défini. Devant le grand public, on dira on a des défauts de masculinisation à la naissance, et les gens auront compris. Mais alors, ils vont s'imaginer je ne sais pas quoi. On ne sera pas assez précis et on risque... de faire passer un message qui sera faux, mais au moins sera compris d'un grand nombre de gens. Donc on a toujours ce problème de, de l'utilisation des termes scientifiques. Et je crois que ça, c'est on avance quand même beaucoup de ce point de vue-là. Moi, je suis plutôt content quand même par rapport... Moi, je sais pas, maintenant, j'utilise par exemple le terme de perturbateur endocrinien sans être obligé de le définir. Parce que globalement, c'est un terme qui est passé dans l'opinion publique.
Oui, il faut quand même ajouter à ça que les scientifiques ne sont pas non plus extérieurs à la société et qu'évidemment, on a nos idées propres qui sont... Qui nous brident dans la pensée, qui nous permettent de penser d'une manière ou pas d'une autre. Et il est vrai que quand même une grande partie de l'histoire de la biologie nous renseigne sur la manière dont les biologistes pouvaient penser au début du siècle, enfin du 20e siècle par exemple. On voit très bien que les idées biologistes étaient quand même terriblement influencées par un patriarcat omniprésent, par un machisme omniprésent, etc. Ça se retrouve quand même régulièrement.
Oui, je voulais. Vous avez, Monsieur Haber, vous avez défini le sexe génétique, gonadique et phénotypique, et ensuite vous avez ajouté d'autres types de sexe, le sexe de l'état civil, le sexe psychologique et le sexe social. Pour les deux derniers les deux dernières catégories, vous avez mis quelque chose qui m'a, enfin, ajouté quelque chose que je ne comprends pas. Vous avez mis l'influence parentale. Alors l'influence parentale, je la comprends bien dans le sexe social, mais dans le sexe psychologique, comment vous pensez à ce moment-là uniquement à l'inconscient et à cet aspect-là de la... En quoi l'influence parentale est-elle... bon. Je pense par exemple aux intersexués qui considèrent qu'ils ont, une... qu'ils se sentent un homme ou une femme dans des corps évidemment qui sont d'un autre sexe. Est-ce que c'est cela que vous voulez entendre par le sexe psychologique ou
non,
d'abord
c'est pas mon domaine et je crois qu'on aura des interventions cet après-midi sur les avec les psychologues, mais moi ce que je vois simplement c'est que en gros les parents n'élèvent pas de la même façon très souvent, bien que on cherche
oui, ça c'est le sexe social,
donc c'est le sexe on appelle ça le sexe d'élevage quoi,
oui.
Entre guillemets, alors si on peut mettre la famille dans la société si vous voulez, oui.
D'accord. Mais, c'était le sexe
et que donc forcément, à un moment ou un autre, l'individu aura été identifié dans sa famille comme étant un petit garçon ou comme étant une petite fille. Donc il aura forcément eu cette influence.
Bien, écoutez, je vais vous proposer de faire une pause. Non, 10 minutes, un quart d'heure, parce que 5 minutes, c'est trop court. Non, c'est bon, on n'est pas en retard. On n'est pas très en retard. Je vous conseille de consulter les ouvrages ou de remonter à l'étage pour vous détendre, si vous le souhaitez. Laissez vos affaires, hein.